Boom. Eh bien, si tout fonctionne bien, on se retrouve avec Maxime Nicole. C'est toujours une grande joie de t'accueillir sur le plateau Swissbox. Bienvenue à toi.
Bonjour tout le monde. Salut Antoine.
Alors, les temps, comment sont dire ? On va pas dire, comment on va dire ? Les temps sont durs ou non ? Les temps sont mûrs, peut-être, puisque, évidemment, on va discuter ce soir particulièrement de la journée de demain, le 10 septembre, qu'on annonce. C'est un peu mystérieux, très honnêtement, hein, pour moi. Et peut-être tant mieux, parce que l'effet de surprise qu'il y avait déjà avec les Gilets jaunes et dont de nombreux événements mondiaux qui se sont passés, il vaut peut-être pas trop réfléchir avant, parce que de toute façon, ça va prouver qu'on a tort. Mais néanmoins, le grondement en France se fait sentir de plus en plus fort. Et demain, il y a une journée dont tu vas peut-être pouvoir détailler un petit peu les contours, mais qui appelle à tout bloqué, qui appelle à quoi exactement ? Macron démission aussi, évidemment. Voilà, tu as certainement plus d'éléments que moi. En gros, à quoi on peut un petit peu s'attendre demain ?
Le 10 septembre, donc demain, c'est d'abord et avant tout un appel à boycotter multinationales, à se servir le moins possible de sa carte bleue, voire pas du tout, à retirer son argent liquide. Et puis à ça s'est rajouté plusieurs choses. Alors, ce qui est très important de dire, parce que c'est quand même assez incroyable pour ne pas passer à côté, c'est que tous les médias mainstream reproduisent exactement les mêmes méthodes qu'au début du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, ouais, on essaie de chercher une tête.
Tu vois des similitudes.
C'est exactement ce qui s'est passé, avec des résultats différents, puisque la méthode de ce mouvement. Les méthodes, en tout cas, de ce mouvement sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de tête qui ont été mis en avant. C'est-à-dire que les gens qui se sont fait contacter par des médias, ceux qui ont diffusé sur les réseaux, comme moi j'avais pu le faire à l'époque, comme Eric, Jérôme, etc. avaient pu le faire à l'époque, toutes les personnes qui ont diffusé ont refusé de parler aux médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul média qui a à se mettre sous la dent un individu lambda dont ils vont, qui vont réussir à extraire de sa vie en le mettant en pâture devant le pays entier et en essayant d'aller chercher dans sa vie tout ce qui est possible et inimaginable pour discréditer ce mouvement. Donc là, ça n'a pas fonctionné, ils n'ont pas de tête. Très bien. Donc déjà, on peut voir que les gens ont compris qu'il fallait éviter ça.
Je veux dire, déjà, un apprentissage, probablement, de l'expérience ou de... Comment on appelle ça, des gilets jaunes 1.0.
Et puis quand les gens, on va dire quand on est normalement constitué et qu'on voit comment les gens médiatisés dont je fais partie ont ramassé, ça donne pas vraiment envie de mettre sa tête en avant.
Ouais, aussi. Tu crois il y a ça aussi.
C'est même, je pense, très fortement probable. Ouais. Déjà parce que quand on est sain de corps et d'esprit et qu'on voit ce que donne le fait d'être médiatisé... on n'a pas vraiment envie de se mettre en avant. Et en plus de ça, quand on voit ce que ça donne, c'est-à-dire que ça a posé des problématiques d'avoir des têtes médiatiques. Déjà parce que on avait beau essayer de faire ce qu'on pouvait, il y avait toujours un média qui réussissait à mettre en avant un truc qui n'avait rien à voir avec le mouvement.
Ah ouais,
donc, je sais pas moi, des antécédents judiciaires d'un tel, le fait qu'il y a 8 ans et demi, 4 jours, 17h et 23 minutes, il y en a un qui est sorti une phrase qui avait sorti de son contexte, qui voulait absolument rien dire et qui... servait de grain à moudre dans la machine médiatique pour essayer de discréditer et diviser, puisque ça c'est
la stratégie toujours.
C'est toujours la stratégie. Donc ces stratégies-là ont été mises en marche dès le début du fait que le 10 septembre ait commencé à être diffusé et dès le début du fait que les gens commencent à en parler. Donc là, première chose, des médias nous contactent. Monsieur Nicole, est-ce que vous savez ce qui va se passer le 10 septembre ? Et d'autres, hein, parce que moi j'ai eu Jérôme au téléphone, on a fait deux émissions avec Alexis Poulain. Enfin deux émissions, moi j'en ai fait une et lui en a fait une autre concernant tout ça et puis des sujets dont on va sûrement évoquer l'existence concernant le référendum d'initiative citoyenne, le basculement démocratique, le fameux thème de cette émission d'aujourd'hui. Et donc on voit ça, les médias commencent à vouloir répéter les mêmes choses, pas de tête, génial. Et ensuite, qu'est-ce que veulent ces gens ? Et là, on voit référendum d'initiative citoyenne apparaître. Et là, je me dis, waouh, exceptionnel.
Mais déjà, où, quand tu dis ces gens, de qui tu parles et tu vois apparaître Rick, où ?
Alors, quand je regarde ce qui se passe par rapport au 10 septembre, je le vois apparaître sur Facebook au départ. Et puis je me dis, bon, c'est étonnant, ça me rappelle quand même quelque chose. Donc la dernière fois que j'ai vu une date sortir sur un réseau social, ça a changé, un réseau social, pardon, ça a changé ma vie. Donc je vais regarder sur tous les réseaux, savoir si ça en parle ou pas. Effectivement, ça en parle sur Twitter, ça en parle sur Snap, ça en parle sur différentes plateformes. Et je commence à en discuter autour de moi. Et là, les gens disent, écoute, on n'arrête pas de demander quand est-ce que les gilets jaunes vont revenir dans la rue. Donc s'il y a quelque chose qui se prépare, franchement, cette fois-ci, je crois que je louperai pas le créneau. Donc je me retrouve à discuter avec des gens qui n'étaient pas dans la rue, et qui ne sont pas forcément mobilisés, mais qui étaient plus ou moins soutiens du mouvement à l'époque, plus ou moins parce qu'il y a des gens qui n'y étaient pas du tout, à qui je parle toujours d'ailleurs, et qui sont des amis, qui me recontactent et qui me disent, là, cette fois-ci, s'il se passe quelque chose, j'en serai. Dans la rue, je pense pas, parce que c'est très violent, la police est très violente, l'État est très violent, et la répression est tellement huilée que c'est pas forcément le meilleur moyen. Mais là, il y a différentes méthodes qui se mettent en place. Donc, le fait de ne plus utiliser sa carte bleue pendant un mois, de retirer son argent liquide, de payer les commerçants en liquide, ce qui fait déjà bah, des frais bancaires qui n'existent, enfin, qui se réduisent, ce qui fait que bah, on arrive à une époque où l'État français, en lien avec l'Union européenne, est en phase de mettre en place un euro numérique. Donc, la plupart des gens ne veulent pas un euro numérique, ils veulent garder une des peut-être dernières libertés qui existent en France, c'est la liberté de faire ce qu'on veut
Avec
avec
un
son
argent
argent.
liquide.
Et puis ça permet aussi d'alimenter un système où l'argent va là où il doit aller, c'est-à-dire de la main de l'acheteur à la main du vendeur et pas de la main de l'acheteur par le biais d'une banque, par le biais des frais de commission. Et tout le monde se sert en attendant. Puis à la fin, la personne qui est censée toucher de l'argent finit par payer des commissions et se retrouve avec encore des frais à payer.
Mais tout ça, c'est des suggestions ou c'est déjà des choses qui ont été concertées par des groupes citoyens ou c'est des appels. Enfin,
Alors,
comment ça se construit là?
c'est des idées qui avaient été déjà évoquées pendant le mouvement des Gilets jaunes, hein, le fait de retirer son argent liquide, d'essayer de sortir le plus possible des banques, le fait d'aller. Donc, il y a d'autres idées, comme le fait d'aller voir ses élus et de leur parler du référendum d'initiative citoyenne, de faire en sorte que le plus de gens s'intéressent à ça. Et on voit que ces idées ont été entendues et, on va dire, il y a des tentatives de les mettre en pratique. Et ce mouvement tente de les mettre en pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un État qui, par le biais de sa police et de ses médias, essaye de comprendre ce qui se passe. Donc, quand je dis la police, c'est les services de renseignement qui essayent à tout prix de comprendre ce qui va se passer. Donc, on a des notes de services de renseignement français qui sortent assez régulièrement par le biais de médias qui disent on attend entre tant et tant de personnes, il va y avoir de l'extrême gauche, de l'extrême droite, mais c'est plus de l'extrême gauche. Enfin, il y a un peu de tout. Et puis, à côté de ça, les médias qui essayent de piocher des infos, c'est leur boulot, hein, donc. Ils essayent de trouver des têtes, ils les ont pas. Et on a un mélange qui fait qu'aujourd'hui, l'État se dit. J'ai publié un truc il y a quelques minutes. Je vais le ressortir parce que j'ai les chiffres devant les yeux, ce sera plus simple. Voilà. On a donc l'État qui se retrouve à mobiliser 80 000 policiers. À l'époque des Gilets jaunes, au plus fort, c'est-à-dire à l'époque où les Champs-Élysées se sont retrouvés. Submergé et que le président a démarré son hélicoptère enfin, parce qu'il avait tellement de courage et il fallait venir le chercher puisque c'était soi-disant le seul responsable qu'il a voulu s'exfiltrer en hélicoptère. Ce jour-là, il y avait 90 000 policiers mobilisés, dont 10 000 à Paris, si je me souviens bien. Et là, il y a 80 000 policiers, mais c'est pas tout. Puisque en France, on n'avait pas assez d'argent pour faire voler des avions pour arrêter les feux. Ben là, aujourd'hui, il y aura assez d'argent, enfin demain, il y aura assez d'argent pour mobiliser 80 000 policiers. Mais aussi une trentaine d'hélicoptères, des drones et des engins lanceurs d'eau et les fameux blindés Centaure qui ont été commandés par Macron. Hein. Je crois qu'il y en a 90 qui ont été commandés. Alors je ne sais pas combien il y en aura de mise en service, mais ils vont être utilisés demain, qui sont, je le rappelle, quand même des blindés qui font pas loin de 9 tonnes et qui sont des blindés anti-émeute. Et pourquoi le gouvernement met ça en place? Parce que ça donne une information assez importante, en tout cas pour les militants et les personnes qui se mobiliseront le 10 septembre. C'est que l'État ne sait absolument pas ce qui va se passer demain. Est-ce qu'il va y avoir des actions sporadiques de destruction de radars, de destruction de barrières de péage pour des péages gratuits, de coupures d'électricité, de commissariats, de coupures d'électricité, de préfectures voilà, ils ne savent absolument pas. Ils se préparent à quelque chose de fort, ça c'est certain, en essayant de médiatiquement montrer les muscles, c'est-à-dire on est là, on a des hélicoptères, des drones, des centaures, des dizaines de milliers de policiers, Et on ne laissera passer. Alors, ce qui est très important dans ce petit texte que je viens de lire avec les chiffres, c'est que notre cher ancien ministre, feu monsieur Bruno Retailleau, a dit qu'il n'y aurait aucune violence dans les rues de France demain. J'espère, et ça c'est un petit message à tous ceux qui soutiennent encore ce gouvernement et qui peut-être verront cette vidéo, j'espère que monsieur Retailleau pense aussi à la violence policière quand il dit qu'il ne veut aucune violence. Ce qui serait une première. Hein. Beaucoup parlent de la une des premières historiques qui est que c'est la première fois qu'on a un ministre, un premier ministre qui se fait limoger par un vote de confiance. Je pense que ce serait mieux une première de journée, enfin première journée de non-violence policière ou une première journée d'écoute populaire, par exemple, hein, parce que beaucoup de gens en France aimeraient avoir la réponse à la question. Pourquoi les gens sortent de la rue et pourquoi peut-être il va y avoir des violences demain. Et une des réponses que j'ai fournies à Sud Radio ce matin en passant chez eux, c'était que il n'y a pas de violence dans la rue quand il n'y a pas de violence d'État. On en avait déjà discuté
Exact.
dans plusieurs émissions. C'est quand même assez important de le dire parce que je pense vraiment très sincèrement et j'essaye d'être le plus cohérent possible quand je réfléchis à tout ça et je me dis. Le mouvement des Gilets jaunes a été le mouvement historique le plus important en termes de mobilisation citoyenne depuis mai 68. Et en l'espace de 6 ans, on se retrouve avec potentiellement une deuxième mobilisation historique. C'est statistiquement très fort. Déjà parce que ça montre que ben, la colère, elle n'est pas descendue, même s'il y a eu le Covid et les confinements qu'on connaît et la disparition progressive des mouvements populaires qui ont eu lieu dans plusieurs pays du monde, hein, pas qu'en France, même si le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui est connu dans le monde entier. Mais on se retrouve voilà, à la veille de quelque chose et que je souhaite du fond du cœur être le début d'un changement, mais pas d'un changement juste politique. C'est-à-dire, j'ai pas envie, enfin, ça c'est personnel, hein, mais j'ai pas envie que demain soir je me dise ok bon bah Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale parce que c'était sa seule option et puis allez par grand miracle il se dit tiens bon je vais démissionner puis je vais laisser le peuple rechoisir un autre président ou une autre présidente. J'ai pas envie d'avoir ça comme information demain parce que premièrement ça joue sur l'émotionnel, ça ferait plaisir à beaucoup de monde, c'est très bien, mais ça ne changerait pas le fond du problème. Et le fond du problème c'est que et ça, c'est vraiment très important parce que beaucoup de gens l'ont compris, puisque dans ce mouvement du 10 septembre, on évoque le RIC. Donc, beaucoup de gens se sont renseignés sur ce qu'était le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, qu'il soit constitutionnel, abrogatoire, révocatoire ou législatif. Et c'est très important parce que, contrairement à tout ce que peuvent essayer de comprendre les médias, les gens ne sont pas dans la rue pour un prix de carburant, ne sont pas dans la rue pour une loi sur le budget avec des réductions de conquis sociaux, parce que. Pareil, la plupart des gens disent des acquis sociaux, moi j'appelle ça des conquis sociaux, parce qu'il y a quand même des gens qui se battent hein, pour avoir des choses que personne ne leur donne. Et puis c'est jamais définitif une fois que c'est obtenu. Donc c'est jamais vraiment acquis. Et donc on a ça. On a le référendum d'initiative citoyenne qui sort en quasiment première ligne des revendications de ce mouvement. Et là je me dis, ok, bah, je veux bien en parler, je veux bien voir ce qui se passe et je veux bien surtout diffuser.
Alors, je sais pas, je lis les commentaires, hein, mais j'ai marqué que Le Cornu se serait devenu le Premier ministre.
Sébastien Lecornu est le Premier
Est-ce que
ministre.
ce serait possible? Je sais pas, je vais regarder ça sur Internet et
On
je voulais pas te couper. Est-ce que j'ai
peut
juste vu ça?
checker.
Est-ce que c'est déjà possible qu'il nomme un
Bah.
Premier ministre si rapidement alors que l'autre... D'ailleurs, j'aurais envie de dire, mais la première victoire du mouvement du 10 septembre, c'est déjà la démission. Enfin, la fin du gouvernement de Bayrou. Ou est-ce que tu l'attribues à ça? Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont senti, ils sont en PLS hein, en ce moment, ils ont senti la pression monter, et du coup, avant le 10, hop, tout d'un coup, ils demandent s'il a la
Ouais,
confiance, alors qu'il l'aurait jamais fait. Donc, est-ce qu'on peut déjà attribuer d'une certaine manière cette
je
étape-là
suis toujours
à...
infusible. Ces gens réfléchissent pas comme nous. Ces gens réfléchissent par un moyen qui est très simple, c'est l'efficacité et l'efficacité sur le long terme. Nous, malheureusement, la plupart des gens, c'est du contrôle de masse, hein, on réfléchit sur l'émotionnel et sur le court ou moyen terme. Et encore le moyen terme, déjà, c'est déjà bien. Eux réfléchissent sur le long terme. Comment calmer
Bien
potentiellement
sûr.
une grogne populaire, bah on fait sauter un fusible Qu'est-ce qu'on a à disposition comme fusible? Bah, tout un tas de ministres, tout un tas de préfets, tout un tas de choses. Mais là, avec un mouvement comme ça, potentiellement, avec des infos qui remontent, des renseignements potentiellement importants, potentiellement explosifs, on fait sauter, je viens de vérifier, c'est bien monsieur Le Cornu
C'est ça, c'est
qui
confirmé.
s'est confirmé il y a 7 minutes sur Le Parisien.
Oui, donc ça pourrait
Voilà.
corroborer avec ce que tu dis, qu'en fait c'est infusible et puis ils avaient déjà préparé évidemment la
Bien
suite
sûr.
directe, quoi.
Il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que ces gens-là ne laissent jamais rien au hasard. On peut pas dire un politique, surtout à ce niveau-là, on parle de politique d'État, a été pris de court. Le mouvement des Gilets jaunes, ils ont été pris de court sur une seule chose, c'est le fait que ce soit massif
La taille.
et que les gens continuent dans le temps. Ils ont été pris de court au départ. Ce qui leur a permis très très vite de réagir en mettant en place les BRAVEM, en mettant en place les CRS-8 un peu plus tard, en équipant les équipiers de police de caméras, de tout un moyen qui a permis aux renseignements de structurer ce mouvement et de le faire mourir à petit feu. Ça, c'est ce qu'ils ont pensé. Ils se sont dit, on va faire mourir ce mouvement par le pourrissement, c'est ce qui est utilisé la plupart du temps dans tous les pays du monde, hein. Mais la colère, elle n'est pas morte. La colère n'est pas pourrie. La colère, elle s'est amplifiée. Et aujourd'hui, elle se structure différemment. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement s'est dit, on va faire très très vite sauter un fusible. Donc on a Bayrou qui saute. Bon, ça a réjoui certaines personnes. Moi, je me suis dit, pour qu'il fasse sauter un Premier ministre très rapidement, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Là, on a Le Cornu qui vient d'être nommé à l'instant Premier ministre. Donc finalement, je crois, si je ne me trompe pas, que la démission de François Bayrou a été déposée sur le bureau d'Emmanuel Macron ce matin. Donc il n'y a pas eu 24 heures entre le dépôt de sa démission et la nomination d'un nouveau Premier ministre. Ce qui ne changera rien au problème.
Ah non, ça c'est sûr, mais peut-être que du coup, là, de nouveau, c'est un peu un rideau qui tombe et on voit de manière encore plus flagrante l'arnaque. Et autant je pensais que mettre du flou aurait peut-être une chance de diminuer la pression, parce que du coup, les gens discutent. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dissoudre? Voilà, machin. Mais là, il renomme Bonnet Blanc et Blanc Bonnet direct après. Du coup, le fusible qui vient de faire sauter, en fait, immédiatement pour moi, il remonte. Du coup, on se retrouve la même chose. En gros, ils
C'est
se
la même.
foutent de notre gueule encore. En fait, c'est
Exactement.
peut-être encore pire qu'il y a 48 ans en arrière.
Ouais, et puis qui a nommé ce personnage encore? C'est le peuple?
Non, bah ça, c'est sûr.
Voilà, donc quand on a des gens qui nous disent écoutez, en France, on est en démocratie, on a le droit de voter, on a le droit d'élire ses représentants et on a le droit d'interagir dans les processus législatifs ou constitutifs, constitutionnels, pardon, etc. Bah, vous avez encore une preuve que c'est pas le cas. Un vote de confiance, c'est-à-dire que la politique du gouvernement, qui est très proche des idées d'Emmanuel Macron finalement, puisque ce qui est appliqué, c'est une politique européenne. Macron est très européiste, et donc il y a rien qui va changer. Le Cornu, vous pouvez mettre enfin, je pense que on en avait déjà discuté, et c'est ce que je dis sur toutes les plateformes sur lesquelles je
Oui.
peux. Mais changer d'être humain, entre guillemets, ne changera absolument rien au problème. C'est mettre un
Fond du problème.
sparadrap sur une coupure.
Ouais.
Mais
Ou une
il y a une
infection
hémorragie
béante.
derrière, à
Ouais, c'est.
l'intérieur. Et donc, il faut absolument, je pense que. Mais en tout cas, enfin, il faut absolument. Je suis vraiment très content de voir que dans ce mouvement, on parle de démocratie, on parle de souveraineté populaire, on parle de contre-pouvoir citoyen, on parle de référendum d'initiative citoyenne. C'est impressionnant. Je veux dire,
C'est
avant le
ça.
mouvement des Gilets jaunes, on n'aurait jamais imaginé pouvoir discuter de ce genre de sujet, c'est-à-dire remettre en question les fonctions d'État et réfléchir à comment les modifier pour que des privilèges ne puissent pas être accordés à une minorité de personnes qui détiennent des pouvoirs qui contrôlent nos vies et qui leur permet d'en faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très important. On n'est pas. Les médias aimeraient que ce soit pour le. On va pas se mentir, hein, les médias, les politiques adoreraient voir les gens se taper sur la gueule pour un voile, pour le prix du carburant ou pour ce qui se passe à l'autre bout du
C'est
monde.
ce qu'ils essaient de faire.
Ce serait génial pour eux. Mais c'est malheureusement pas ce qui est en train de se passer. Alors, effectivement, il y a toujours des trolls sur Internet ou des gens qui sont très, très bornés sur leurs idées et qui s'arrêtent à ça. Mais majoritairement, ce qu'on voit ressortir, et pas que sur les réseaux, parce que là, c'est aussi important de sortir de cette bulle qui est l'informatique, c'est d'aller voir les gens. Et quand j'en discute autour de moi, quand j'essaye de piocher un petit peu, enfin de trouver ou de chercher la température et de discuter avec des gens que je sais en contradiction avec mes idées, et même ces gens-là me disent, écoute, oui, c'est sûr que là, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, il faut changer les choses, il faut. La droite, la gauche, j'y crois plus. Moi, je votais, mais je vais arrêter de voter parce que finalement, je donne mon pouvoir à quelqu'un. Et donc, il y a vraiment une espèce de prise de conscience. Il y avait déjà une prise de conscience parce qu'en France, le parti majoritaire, c'est l'abstention, le vote blanc. Donc déjà, tous ces gens-là ne croient plus en la politique. Pour la plupart, c'est des gens qui ne s'y intéressent absolument pas. Donc, il n'y a pas vraiment de base une conscience politique, mais ça a évolué depuis le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que même les abstentionnistes se disent, bon, c'est bien de laisser faire et de pas voter. Maintenant, on aimerait bien essayer de changer les choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ouais, et c'est là où j'espère vraiment une convergence réellement de nombreuses luttes ou idées d'ailleurs, et c'est ça que j'apprécie particulièrement à ce que je pense, je l'observe pas encore, mais ce que je suppute par rapport à demain le 10 septembre, et j'espère que ça pourra durer, c'est la protéiformité, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, et tu en as nommé plein, plein de bouts, et ces éléments ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire qu'ils font partie d'un tout. Et c'est là
Ça.
où peut-être, et j'en discutais avec Barbara Stiegler l'autre jour, parce que moi je suis assez pessimiste en général par rapport au mouvement révolutionnaire ou évolutionnaire, faudrait-il dire. Et elle disait, non, mais tu vois, tous les grands événements du monde, si le jour avant, tu étais incapable de dire que ça pouvait aller arriver.
C'est impossible de le savoir à
La
l'avance.
chute du mur de Berlin, le 11 septembre, les grandes inondations, que ce soit naturelles ou politiques, hein, d'ailleurs, on ne s'y attend pas. Et c'est vrai que quand tu regardes l'histoire, eh bien, on voit que les Français, ils ont été créatifs, ils ont amené des choses nouvelles qu'on n'avait jamais vues avec la République, enfin, quand ils ont coupé la tête du roi et autres. Je ne connais pas forcément très bien l'histoire française. Mais moi qui suis en Suisse, si tu veux, il y a un certain découragement parce que le confort suisse, il est tellement élevé que cette pourriture sous-jacente, ben, nous, on n'a pas vraiment ni la mentalité, ni, je ne sais pas comment dire, ni les pratiques pour aller vraiment la chercher. Alors, on a des outils parfois démocratiques qui font qu'on a l'impression qu'on a
Ouais.
une forme
Vous avez les
de
référendums
pouvoir,
d'initiative
effectivement.
citoyen.
Mais tu vois, c'est juste une puzzle dans un grand jeu
Ça.
qui est le même que le vôtre, c'est-à-dire un régime néolibéraliste de gens qui servent les lobbies et leurs intérêts personnels. Et du coup, bah, je suis très admiratif et j'ai même beaucoup d'espoir. C'est pour mettre la pression sur personne, hein, parce que avoir trop d'attentes, c'est aussi peut-être la
Ouais, mais
meilleure
après,
façon
je
d'être
pense qu'il n'y a
déçu, quoi.
même pas besoin d'avoir de l'espoir dans cette date-là, parce que comme tu le disais, ça vient jamais quand on s'y attend. Donc demain, c'est le début de quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est le début d'un changement définitif. C'est pas demain que les choses vont basculer. Peut-être que c'est demain. Mais ça, toi comme moi, ou comme toutes les personnes qui écouteront cette vidéo ou qui se posent des questions sans regarder tout ce qui se passe autour, personne ne peut le savoir. Ce qui est important de se dire, c'est que c'est un pas de plus en avant vers quelque chose qu'on espère être d'intérêt collectif. Et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que plutôt que de voir les gens après les gilets jaunes, après les confinements successifs, la peur, le contrôle, le QR code, le machin, on aurait pu se dire, mais plus jamais personne ne va avoir envie de faire quoi que ce soit. Et je passe les éborgnés, enfin les
Ah, bien
mutilations,
sûr.
la peur
Une
de
forme de
prendre une amende.
défaitisme et de fatalisme
On aurait pu se dire,
qui
c'est bon,
pourrait
c'est fini.
s'installer.
C'était le seul créneau qu'on avait pour essayer de changer les choses, c'est foutu. Et là, 6 ans plus tard, il se passe quelque chose. Pour moi, c'est incroyable, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que non seulement les gens ne se résignent pas si facilement que ça, même après, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, des confinements, c'était jamais arrivé. Des choses qui sont assez fortes historiquement. Des contrôles de déplacement par auto-attestation, c'est quand même des trucs d'obéissance de masse qui sont assez incroyables. Et même après ça, les gens veulent encore sortir dans la rue, ils veulent encore changer les choses. On regardait tout à l'heure, avant l'émission, ce qui se passe au Népal. Népal, où le gouvernement vient de tomber, où les jeunes sont sortis dans la rue, où on a vu le ministre, je crois que c'est le ministre de l'économie, se faire lyncher dans la rue, le ministre des Finances, ouais, se faire lyncher dans la rue. Évidemment que, parce qu'on m'a posé la question sur les violences, et comme ça revient tout le temps, pourquoi les violences? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des violences? Est-ce que vous pensez
On
que
en
ce
avait
sera violent?
largement parlé.
Bien sûr que si on me pose la question, est-ce que j'ai envie de violence? Non, je me lève pas le matin, désolé de décevoir ceux qui me pensent extrémistes. Je me lève pas le matin en me disant j'ai envie d'aller tuer Macron, j'ai envie de lui couper la tête ou j'ai envie de brûler un flic Non, jamais, je me suis jamais levé le matin en pensant ça. Par contre, c'est malheureusement dans ce genre de conflit qui amène l'explosion des inégalités et qui amène des sociétés à être sur une espèce de bascule où on ne sait jamais de quel côté ça va tomber, eh ben malheureusement, ça peut en arriver là. J'aimerais beaucoup que demain naisse un mouvement qui tend à aller vers une démocratie la plus directe possible et qui réussisse par l'épuisement économique, par l'épuisement, par le pourrissement de la politique
Telle qu'elle
d'aujourd'hui,
est aujourd'hui.
telle qu'elle est aujourd'hui, réussisse à changer tout ça. Si on me demande pacifiquement, ben j'adorerais que ce soit pacifique, évidemment, s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas
Signe.
d'éborgnés, que ce soit de n'importe quel côté, que ce soit un politique, je souhaite même pas à Macron de se faire éborgner, mutiler, couper la tête ou quoi que ce soit. Maintenant, à un moment donné, et historiquement, si on ouvre n'importe quel livre d'histoire et qu'on regarde n'importe quelle évolution d'une société qui a commencé à un point A et terminé à un point B, ben le schéma se répète. Explosion des inégalités. Minorité ultra riche ou qui détient la majorité des pouvoirs, qui lutte pour garder ses privilèges, et à un moment donné, une masse qui renverse la minorité et qui finit soit par couper la tête d'un roi, soit par. Donc, c'est le dernier stade d'un effondrement. Et entre les deux, parfois il y a des guerres, parfois il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer, plus ou moins graves et plus ou moins catastrophiques. Mais on est quand même dans un monde aujourd'hui où je pense que la situation géopolitique, qu'elle soit économique, qu'elle soit militaire au niveau des tensions, qu'elle soit qu'on parle aussi des guerres ou du génocide. D'ailleurs, je vois que tu as un t-shirt de la Palestine et ça fera pas du bien à tous nos amis qui détestent ce sujet, mais Free Palestine. Et tu vois, aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on a en vidéo H24 un génocide et il y a des gens qui continuent d'essayer de se déchirer sur des oppositions politiques. Je me fous de savoir si c'est de droite, si c'est de gauche, ce que pensent les gens de droite ou de gauche de ça, si c'est Mélenchon qui s'en sert, si c'est Marine Le Pen. Je m'en tape, il y a des gens qui prennent des bombes sur la gueule et ça, moi, ça me débecte et j'aimerais que ça s'arrête. Que ce soit en Palestine, que ce soit au Yémen, que ce soit au Congo, que ce soit dans n'importe quel pays où des civils qui n'ont rien demandé à personne prennent des bombes sur la gueule pour des conflits de politique et qui ont amené par le financement enfin bref, c'est un autre sujet. Mais c'est très important et je voulais quand même le dire parce que c'est un joli t-shirt. Et c'est une cause qui est très importante.
Oui, probablement que pour moi, la source de toutes les luttes, elle est aussi là. Hein, c'est le foyer du colonialisme, c'est-à-dire de cette pensée ou de cette vision qui pense que certains sont ont plus de valeur que d'autres, tu vois, ou sont très supérieurs à d'autres. Et là, il y a un stop, un chemin qui est montré par les Palestiniens vers la liberté. Et je ne suis pas étonné que le monde y soit un petit peu infusé par ce courage des Palestiniens et que peut-être ça contribue d'une certaine manière aussi à s'émanciper pour chacun à son niveau, à sa place, avec ses moyens là où il est.
Mais je
En
pense
tout
que
cas, moi, je pense que maintenant tout est tellement interconnecté que probablement il y a un petit peu de ça. Enfin,
toutes les
au
populations du monde
sud-cotin,
sont en train
j'y
de se
crois.
bouger.
C'est ça.
Alors, dans des contextes qui sont complètement différents, en Palestine, ils se prennent des bombes sur la gueule. Au Népal, la vie n'est pas très facile là-bas. Mais il y a des jeunesses en Allemagne qui se lèvent et qui aimeraient que les choses changent. Il y a le 10 septembre en France. Il y a des pays, puisque là, par exemple, je discute beaucoup avec des gens du Québec. Le Québec qui suit de très près ce qui va se passer le 10 septembre. Se demande aussi comment ça va se passer, puisque la corruption est présente aussi chez eux.
Mais oui, dans tous les pays néolibéraux, ça pourrit.
L'accaparement des pouvoirs et des institutions et le détournement de ceux-ci par les mêmes à chaque fois, hein.
Ouais.
C'est-à-dire que vous changez de nom, vous changez de
Ah, mais
personnage,
les schémas
vous mettez
sont
un
clairs
homme ou une
si on les
femme,
regarde un peu.
pour les gens qui pensent que c'est encore un problème d'homme, vous pouvez
Ouais.
mettre n'importe qui, ça finit toujours pareil. Et que s'il n'y a pas de contre-pouvoir et de contrôle, et c'est ça qui est très important, c'est que ce mouvement parle de ça,
Ouais, c'est
la
ça.
récupération. De cette gestion et de ces contre-pouvoirs par la population.
Oui, tout à fait. Mais qui parle aussi des gens. Alors, je crois que sur ta chaise, hein, je suis désolé, tu
Ah,
descends à chaque fois. Puis
en train de
peut-être,
m'enfoncer.
peut-être vraiment.
Attends, je vais essayer de
C'est
relever
une
ça.
chose. Mais au-delà de l'analyse politique, et aussi là, avec Barbara Stiegler, qui est philosophe, ça fait du bien, c'est de revenir au niveau de l'homme, de la femme, enfin de l'humain qui
De
vit le
l'individu, hein.
préjudice de l'individu. Et on parlait des émotions. Et qui font que, ben, à un moment donné, on dit stop et on se lève. Et elle avait parlé de la peur, de la colère, de la frustration, du dégoût, etc., évidemment. Mais j'ai l'impression qu'elle parlait de ça plus sur un point de vue quand même intellectuel, parce que c'est une intellectuelle. Et je me suis dit, ah ben ça serait un super sujet à évoquer avec Maxime. Mais avant les Gilets jaunes, qu'est-ce qui t'a fait sortir? Parce que tu peux avoir effectivement une compréhension intellectuelle des problématiques qu'il y a, on ne peut pas faire ça, la liberté, etc. Mais dans le quotidien des gens, les gens, ils pensent, OK, là, il y a un truc, on m'empêche, on me censure, on me met des bâtons dans les roues, on m'écrase, on me divise. Voilà, est-ce que tu arrives à parler de ça? Parce qu'effectivement, en Suisse, je pense qu'on a quand même un peu une mentalité de bourgeois, du coup, hein, de gens relativement à l'aise, même s'il y a aussi de la pauvreté, on la cache très
Ouais,
bien chez
vous
nous.
la
C'est juste
cachez
qu'on
très bien,
la
ouais.
cache beaucoup mieux, probablement qu'ailleurs. Mais voilà, est-ce qu'on arrive à revenir au niveau de l'individu et dire, probablement, voilà les raisons qui font que,
Ben, moi,
ah, ça va,
ce qui m'a fait
c'est
sortir dans la
stop
rue,
maintenant.
c'est, bon, déjà ce que tu dis, des années où je me suis dit l'injustice, je suis complètement contre, je comprends pas comment on peut laisser faire ça. J'étais déjà.
Mais quelle injustice!
Ben, les injustices de voir des gens en costume cravate t'expliquer la vie, à te dire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, en faisant tout son inverse. De voir des moi j'ai pas eu enfin j'ai eu la chance entre guillemets quand j'étais jeune de pas être confronté à la police de la manière dont je l'ai été confronté en tant qu'adulte mais j'ai déjà vu des gens parce qu'ils avaient des origines différentes ou parce que on était dans une ville où la police était peut-être confrontée à différentes difficultés réagir complètement différemment et je me dis mais attends mais si ces gars qui portent des uniformes sont capables de faire ça et qu'on leur dit rien c'est qu'il y a un souci donc depuis très jeune en fait je suis quelqu'un qui observe en étant plus ou moins critique sur le monde dans lequel on vit. Et puis arrive ce mois d'octobre, parce que moi j'ai eu connaissance du mouvement des Gilets jaunes en octobre 2018, juste avant que ça commence, hein, parce que c'était le 17 novembre. Et ce qui m'a fait sortir dans la rue, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis pas tout seul. Puis je discutais avec des gens, je commence à échanger, et je me dis, mais en fait, on est vraiment beaucoup à penser comme ça. Et puis arrivent les mobilisations de rue. Et là, je rencontre encore plus de monde, du coup, puisque je me mets à faire des manifestations dans plusieurs villes de France, où je croise des milliers de personnes. Et je me dis, mais putain, mais comment on peut laisser un monde continuer comme ça quand on voit la population qui est impactée comme ça et qui se dit, mais je me fous d'être. Parce que c'est ça le truc, c'est que dans les manifestations, il y avait des gens de tous les horizons politiques, de droite comme de gauche. Et ça ne nous a pas empêchés de discuter. On ne tombera jamais d'accord sur. D'ailleurs, pour préciser un truc. Quand je dis que je suis sorti dans la rue parce que je me sentais pas tout seul. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui disent ouais, mais moi je veux pas aller avec des gens de droite, je veux pas aller avec des gens de gauche, je veux pas aller avec des gens qui ont été gilets jaunes, etc. Dites-vous que vous mettez en place des gens qui, au sein d'une assemblée, donc un hémicycle là, un demi-cercle, sont représentatifs de toutes les confrontations qu'on peut avoir possibles dans la société. C'est des gens qui sont pas du tout d'accord. Et on les a mis dans une pièce pour essayer de gérer nos vies. Sauf qu'on ne leur met pas de contre-pouvoir. Donc si eux sont capables d'être dans une pièce, de foutre de notre gueule et faire ce qu'ils veulent avec nos vies, peut-être que nous, on peut toujours ne pas tomber d'accord sur les choses, mais peut-être réfléchir dans l'intérêt collectif et mettre les contre-pouvoirs nécessaires pour éviter que les pouvoirs soient accaparés par une minorité. C'est pas impossible de discuter, même si on n'est pas d'accord sur tout. Je pense que même toi, si on venait à discuter de sujets plus, on va dire, explosifs, on tomberait peut-être pas d'accord sur tout. Mais est-ce que ça rend impossible le fait de discuter? Et est-ce que ça rend impossible le fait de se dire, bon, tes décisions et mes décisions, là, elles vont impacter la vie de 67 millions de personnes? Donc ok, on n'est pas tout à fait d'accord, mais soit on trouve un compromis, ou du moins on essaye de tester ton idée et puis de tester la mienne et on voit laquelle fonctionne le mieux, soit ben qu'est-ce que tu penses? On s'assoit, on mange un homard et on fait 20 ans de politique, c'est payé, c'est bien payé, grassement. Si les gens disent rien de toute façon, alors on peut faire ça, je pense, une carrière, ça me dit bien. Hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens se foutent royalement. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des politiques hein, sur des plateaux de télévision, etc. Ces gens, quand la caméra est allumée, ont des rhétoriques exceptionnelles, tout est huilé, c'est joli, on a l'impression qu'ils ont une énergie qui les habite, ils sont là pour le peuple. Et quand la caméra s'éteint, c'est plus des ennemis, ils bouffent des petits fours ensemble, puis ils discutent de leurs vacances. Oh, j'ai le chauffeur qui est venu me chercher, ouais, tu sais, j'ai un chauffeur, donc tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr. Ce qui, selon moi, d'ailleurs, contribue pleinement à ce dégoût les citoyens ou la société ou le peuple, je sais pas comment on peut l'appeler, mais qui voit ça, qui s'en doute bien, parce que ce cinéma de la télé, bon, bah, on a compris, les réseaux et les médias alternatifs ont aussi mis lumière là-dessus. Là, plus récemment, on a eu t'as sûrement vu là, ce dîner avec Patrick Cohen, Thomas Legrand. des journalistes, donc, et puis
Ils
Luc
discutent.
Broussier et Pierre Jouvet, des socialistes. Et en gros, ils font leurs petits arrangements. Et en fait, c'est même pas choquant, c'est la preuve de ce qu'on sait ou ce
Ouais,
qu'on imagine depuis bien longtemps.
mais c'est cette espèce de fenêtre d'Overton dont on parle tout le temps.
Ouais, c'est
C'est
ça.
tout le monde le sait. Et ça aussi, c'est un point commun entre les gens de gauche, de droite, de tous les partis politiques, en fait, de tout cet éventail-là. Tout le monde sait qu'il y a de la corruption. Tout le monde sait que
Et une
oui, ces
impunité.
gens font un peu ce qu'ils veulent, ils ont effectivement une impunité, on peut. Enfin bon, ouais, d'accord, mais enfin, c'est pas eux les responsables de tous les problèmes non plus, hein, parce que mon voisin, là, qui touche le RSA et puis qui roule
Ouais.
en Mercedes, eh ben. Tout le monde le sait. Mais personne, du moins avant le mouvement des Gilets jaunes, personne ne s'y intéressait plus que ça. Il n'y avait pas cette conscience de se dire, bon, ok, on le sait, mais peut-être qu'il faudrait changer ça pour que ça aille mieux.
Ouais,
Et
mais peut-être une forme
aujourd'hui, il y a.
d'impuissance parce qu'on se dit, mais de toute façon, on sait que tout le monde le sait et on voit bien que ça change rien, donc finalement,
Ouais, mais cette
quoi?
impuissance, elle se transforme. Parce que si tu sais que. Je vais prendre une image un peu bête, mais tu as un accident de voiture, tu es piégé dans ta voiture, elle prend feu. Si tu sais qu'on te dit bah tu peux rien faire, tu pourras pas sortir. T'as deux solutions. Soit tu te dis bah on m'a dit que je pouvais rien faire et puis bon de toute façon je suis sur le toit, il y a de l'eau qui rentre dans la voiture, elle est en train de prendre feu de l'autre côté, j'ai peu de chances de m'en sortir. Maintenant si tu commences à voir du monde arriver autour de la voiture et te dire mais on te casse la vitre, tu vas sortir. Tu te sens plus seul. Et là du coup c'est complètement différent. Il y avait une expérience, alors j'ai plus le nom de l'expérience. Ils ont fait l'expérience où ils mettent des souris dans de l'eau. Je sais pas si t'en as entendu cette, je sais plus comment elle s'appelle cette expérience.
Pas
Faudrait que je
grave le
retrouve.
nom, mais ça donne quoi?
Bah, ils mettent des souris dans l'eau et ils chronomètrent le temps qu'une souris va arrêter de lutter pour éviter de se noyer. Et donc, au début, je crois ne pas me tromper en disant que la souris va nager pendant une dizaine de minutes et puis elle se laisse couler parce qu'elle est épuisée et elle perd foi au fait qu'elle va réussir à s'en sortir. Et puis au moment où la souris coule, dans l'expérience, ils sortent la souris de l'eau, ils la laissent se reposer, etc., se réchauffer, et ils la remettent dans l'eau. Est-ce que tu sais combien de temps elle a réussi à rester à nager dans l'eau?
Alors beaucoup plus, du coup, j'imagine.
60 heures. 60 heures. C'est-à-dire que quand on sait qu'on peut s'en sortir, on lutte. C'est ce qui est dans le livre de la guerre. Quand les gens se battent avec l'énergie du désespoir, ils sont beaucoup plus forts que quand ils ont l'impression de pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il y avait une issue à chaque bataille qui permettait de gagner des guerres. Parce qu'on faisait croire aux gens que s'ils se barraient pas, ils allaient mourir, donc on laissait une petite porte ouverte.
D'ailleurs, c'est ce que les Russes font. Moi qui observe le terrain de bataille en Russie, il y a toujours ce qu'ils appellent des chaudrons, mais jamais ils
C'est jamais
ferment les
fermé.
chaudrons. C'est jamais
Jamais.
fermé.
Et là, ils permettent à 90% des gens qui préfèrent survivre de partir. Alors que s'ils ferment ce chaudron, 90% des gens qui sont dedans vont dire j'ai pas envie de mourir, donc ils vont lutter pour survivre, c'est pas pareil. Aujourd'hui, les gens sont passés de lutter pour survivre en ayant confiance en des gens et en mettant un papier dans une urne à et on se fout tellement de ma gueule. Et puis on a essayé des politiques depuis 20, 30 ans, tous les 5 ans on change et ça change jamais. On
Les
passe de
politiques ne changent pas,
et les
les
politiques
gens
ne
ne
changent
changent
pas,
pas. Ouais.
la pente est toujours la même, on est en train d'obéir à une Europe qui dévaste tout sur son passage. Et pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres, pour des intérêts qui sont économiques, qui par contre, pendant le Covid, ont rempli les poches des multimilliardaires, ils se sont jamais autant gavés, pendant que des petites entreprises fermaient et que des gens sont morts sur des lits d'hôpitaux parce qu'il n'y avait pas non plus assez d'argent pour entretenir les hôpitaux. Je rappelle quand même, pour ceux qui regarderont cette émission et qui ne sont pas français, que pendant le Covid, on a habillé nos soignants avec des sacs poubelles, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les blouses. Et aujourd'hui, demain, on va mettre 80 000 policiers, des blindés anti-émeutes, des hélicoptères, des drones. Combien ça coûte ça?
Ah oui, bien
Et
sûr.
les feux de forêt qui étaient en début d'année en France, enfin début d'année, cet été en France, là, qui ont brûlé je ne sais pas combien d'hectares, on n'avait pas d'avion pour éteindre ces feux-là, parce qu'il n'y a pas d'argent. On repousse l'âge de départ à la retraite parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais il y a des milliards à donner à
À l'Ukraine.
l'Ukraine, il y a des milliards à donner, ou du moins il y a de l'armement à donner à Israël, il y a des millions à mettre sur de la surveillance des drones, des hélicoptères pour mater la population qui n'en peut plus et qui veut juste légitimement dire, bon, écoutez, on n'a pas de solution miracle, mais on veut plus que vous ayez le pouvoir. Et on veut faire en sorte que ce soit contrôlé. C'est pas compliqué à comprendre. Hein. Non, bah non, vous comprenez, parce que si jamais vous contrôlez les choses. Il est où notre pouvoir? Comment on fait, nous, pour continuer d'avoir des privilèges?
J'ai lu qu'il y avait 70% des Français qui souhaitaient le départ de Macron.
Il y a pratiquement. Ouais,
70.
c'est. Pour les Français, 70, on est à 67%, je crois. 67, 70. Mais par contre, il y a à peine 15% d'opinion favorable à Macron.
C'est ça, ouais. Il y a encore
15%, c'est plus bas
des
que
gens
pendant les
qui.
Gilets jaunes. Plus bas que pendant les Gilets jaunes.
Ouais.
Comment, en tant que président de la République, on peut se lever le matin en disant j'ai 15% de la population qui me soutient? Ouais, les gens m'aiment. Je pense que je fais tout bien comme il faut. Je pense vraiment que cette personne, non seulement on s'en fout complètement de l'avis des gens, s'il est aimé ou s'il n'est pas aimé, pour une raison simple, c'est que son intérêt, il n'est pas personnel. Son intérêt, il est de suivre un agenda qui est plutôt très clair. C'est d'aller vers une guerre, c'est d'aller vers un contrôle économique des gens par le biais de l'euro numérique, c'est d'aller en acceptant que ce soit d'ailleurs décidé autre part qu'à l'Élysée. C'est pas décidé à l'Élysée tout ça, hein. C'est décidé au niveau européen. Et ça s'applique tout doucement, le contrôle des populations par le biais des cartes d'identité biométriques, puce, QR code. Qui sont déjà sur nos cartes d'identité. Je sais pas si tu l'as déjà vu, les cartes d'identité françaises. Je l'ai dans la poche, je peux te montrer si tu veux. Nos cartes d'identité maintenant ont une puce et un QR code.
Ok.
Vois? C'est
Ah ouais,
sympathique.
QR code.
Voilà. À ça, tu rajoutes un euro numérique et puis t'es en marche par le, pour le comment le crédit social, quoi.
Oui. En plus, on va voter sur l'e-ID là tout bientôt. Tous les partis sont pour, ou ça a l'air de nouveau une grande arnaque. En tout cas, moi, j'ai pas confiance en ça. Quand on nous dit, ouais, non, non, mais on va mettre toutes vos informations du même côté, vous inquiétez pas, elles seront
Est
très sécurisées.
sécurisé. Ayez confiance. C'est très français cette phrase, mais tu vas voir, en Suisse,
Et...
ça résonnera peut-être. Ayez confiance.
Oui, bien sûr. Ouais.
Ce qui est bien certain, c'est qu'il faut absolument pas faire confiance à ces gens, surtout si on se pose la question de savoir si c'est dans son intérêt ou pas. Toutes les personnes qui ont encore confiance en la politique, je pense que c'est qu'une question de temps, parce qu'on est vraiment en train de voir que et c'est pas français, hein, c'est pas que français. Le monde entier quasiment est en train de regarder ce qui va se passer en France. Au même titre que ça s'est passé pendant
Mais
le
tout à
mouvement des
fait.
Gilets jaunes, parce qu'on est une espèce de population qui est connue historiquement comme étant une espèce de levure qui une fois qu'elle prend, bah, va faire naître des ou va pousser les autres populations à emboîter le pas. Bon, là, bah, ça part pas qu'en France, ça part. C'est pas le Pérou, c'est le
Népal.
Népal, je me suis trompé tout à l'heure aussi. Le Népal, ça prend un peu partout et je pense que c'est une continuité en fait. C'est juste que les populations arrivent à saturation. Et quoi de mieux pour un gouvernement quand on arrive à des populations qui sont à deux doigts limite accepter une guerre civile que de déclencher une guerre?
Ouais, ça c'est sûr.
On est quand
C'est
même.
la plus grande peur d'ailleurs que j'aurais dans ces moments critiques où tout d'un coup Macron envoie des troupes en Ukraine par exemple, ou fait un truc complètement lunaire qui met le faux pouls au niveau international, tu vois, pour toujours pareil. Donc il faut être super vigilant ces prochains temps, c'est clair.
Oui, et puis on a au
En tout
niveau
cas.
français, on a quand même eu l'information que le gouvernement avait demandé aux hôpitaux civils et militaires de se préparer à recevoir
Oui, qu'est-ce que
des...
c'est? Vas-y, c'est quoi cette
Ben,
histoire?
en gros, il y a une circulaire nationale qui est passée aux hôpitaux civils et militaires et qui leur demande de se préparer pour mars 2026 à être en capacité de recevoir des blessés de guerre, donc entre 100 et 200 soldats par jour, pendant une période de 180 jours, si je me rappelle bien.
Donc, c'est plutôt pour soigner des civils
Non, des
ou
militaires.
des
C'est pour
militaires.
soigner des personnes qui sont blessées, qui reviennent du champ de bataille. Alors, la précision a été à peu près faite en disant non, c'est pas des soldats français, mais c'est des soldats européens qui seront envoyés sur le front ukrainien qui pourraient potentiellement être blessés
Oui, là,
et
c'est
donc on
filé, là.
servira entre guillemets de base arrière pour soigner ces gens-là. Mais en même temps, Macron discute d'envoyer des troupes là-bas. Poutine dit que si jamais des troupes étrangères arrivent sur le sol ukrainien
Des
dans
cibles
un théâtre
légitimes.
de ce qu'on appelle un théâtre d'opération, donc un champ de bataille. Il réagira en conséquence. Donc on est vraiment dans une espèce de haut niveau de guerre froide, on peut dire ça comme ça, où
Guerre tiède.
c'est une guerre tiède, c'est la grenouille dans la casserole, à savoir quand est-ce qu'on sort de la casserole, c'est-à-dire est-ce qu'on les laisse foutre le feu jusqu'au bout? Est-ce qu'on les laisse... Une phrase qui revient souvent aussi d'ailleurs, c'est les gens disent, oui, les gouvernements n'attendent que ça des gens dans la rue pour déclencher des articles 16, des lois fédérales, etc. Pas lois fédérales, des lois un peu martiales, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot.
Ouvre-feu et
Pour,
autres.
voilà, ce genre de choses pour contrôler les populations. Et à chaque fois qu'on me dit ça, ça me fait rire parce que je me dis, mais si on fait rien du coup, alors? On attend, on obéit, on prend les lois les unes après les autres, et puis on scanne un QR code quand il faut se lever, quand il faut dormir, et on a un salaire numérique qui peut nous être enlevé en claquant des doigts. C'est
Oui.
quoi l'histoire?
Ben moi j'appelle ça l'israélisation du monde, c'est-à-dire que gentiment on va nous enfermer comme le camp de concentration Gazaoui, et puis on va vous dire maintenant vous taisez, puis vous mourrez
Bien
en
sûr,
silence.
ouais, bien sûr.
Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et on le voit, hein, les polices, en tout cas occidentales, elles se durcissent de plus en plus,
Elles se militarisent.
elles se militarisent, elles commencent à utiliser
C'est des
des
doctrines qui sont
méthodes
complètement
répressives et
différentes. Ouais.
violentes. Ben, ça fait déjà longtemps qu'elles le font, mais j'ai l'impression que le niveau monte de
Ou
plus en
alors,
plus, pour des choses de moins en moins graves a priori, si tu veux. Bon, il y a
C'est ça.
peut-être une
Mais
20 ans
les
en
méthodes
arrière,
de
quand tu
police.
manifestais, tu venais pas te faire matraquer
Non.
la gueule.
Pas de la même manière. C'était, il y avait une répression qui pouvait être du gaz. Puis bon, ils n'étaient pas équipés pareil. C'est surtout ça, en fait, qui devient. C'est-à-dire les méthodes, les doctrines psychologiques de formation policière et militaire, elles sont plus ou moins identiques. Ce qui diffère, c'est les formations, l'équipement et les méthodes d'emploi. C'est-à-dire qu'avant, on te donnait un bâton dans la main, je dis une bêtise, hein, mais on te donnait un bâton dans la main et puis une gazeuse et on te disait, bon, voilà, tu as 4000 personnes devant toi, il faut les calmer. Forcément, la réaction est différente que quand on t'équipe comme un Robocop avec des lanceurs de grenades qui te shootent quelqu'un à 10 mètres et qui peut te l'éborgner et des blindés de 9 tonnes qui peuvent pousser n'importe quoi. On te dit, voilà, maintenant, tu es équipé comme Robocop et puis il faut aller les calmer. Et pour être sûr que tu obéisses bien, on va te laisser pendant 3 heures te prendre des KS sur la tronche. T'es protégé derrière, toi, t'es dans ton petit palais de l'Élysée. Tu vas bien laisser les flics faire tampon et s'en prendre plein la gueule. Et une fois qu'ils en ont pris plein la gueule, puisque ça reste des êtres humains, je sais que cette phrase fera pas plaisir à beaucoup de monde, mais ça reste des êtres humains comment dire,
On chauffe.
qu'on maltraite psychologiquement. C'est-à-dire que ces gens, à la base, pour ceux qui participent aux manifs, parce que moi je connais des flics qui refusent d'y aller hein, dans les manifestations, ils veulent pas obéir à ce genre d'ordre. Mais pour ces militaires et ces policiers, enfin, surtout les policiers et les gendarmes, qui sont employés dans ces manifestations, on les drille. On appelle ça du drill, c'est-à-dire qu'on déforme ta manière de voir les choses, on t'enlève toute possibilité d'avoir une information sur la globalité de la situation. On te donne juste ce que tu as besoin de savoir, c'est-à-dire tu as un secteur à surveiller, tu as un secteur d'emploi ici et il faut libérer cette rue ou aller chercher tel individu, etc. Donc en faisant ça, on rend le policier incapable de réfléchir par lui-même. Et puis il y a l'habitude qui fait que, bah, avec le métier et la récurrence, bah, moi j'ai quand on entend un policier, moi ça me fait mal aux oreilles, hein, mais quand on entend un policier dire, je suis pas payé pour réfléchir et je fais que mon travail. Je peux pas m'empêcher de réfléchir et de voir les vidéos ou les témoignages de nazis qui ont été jugés après la chute du régime nazi, qui ont dit je faisais que mon travail et j'étais pas là pour réfléchir.
Ouais, mais ça n'a pas suffi,
Non, ça n'a pas
Mirabel.
suffi parce que encore une
Comme
fois, les
excuse.
mêmes méthodes sont. Non, ça n'a pas suffi comme excuse. Et c'est ça aussi que peut-être les policiers devraient comprendre. C'est-à-dire que vous
Ouais.
restez des êtres humains, vous êtes employés à tort contre les intérêts des populations. Et quand vous vous levez le matin, je sais que beaucoup de gens détestent votre fonction parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est difficile pour des gens qui survivent et qui voient que l'État a comme réponse la violence. D'apprécier le tampon qu'il y a entre l'État et le peuple. Et malheureusement, c'est cette fonction-là qui fait tampon, c'est la police. Je sais que c'est difficile pour vous de voir cette colère citoyenne, mais je rêve peut-être, c'est utopique ce que je vais dire, mais je rêverais d'un jour où la police dépose les casques et dise, et là, il y aurait de la violence, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ne le font pas, mais c'est une espèce de violence libératoire, et que ouais, la population récupère une institution d'État, conseil constitutionnel, le conseil d'État, le palais de l'Élysée, pourquoi pas? Pas pour le brûler ou en faire un feu de joie, mais pour montrer, ça y est, le peuple a récupéré un endroit où normalement il est censé être représenté. Et ce serait magique. Et puis l'autre, il peut s'envoyer en hélicoptère n'importe dans quel pays il veut, même il rester en vacances jusqu'à la fin de ses jours, on le jugera après, on le mettra en prison une fois qu'on aura réglé les choses. Mais ouais, j'adorerais voir ça, moi, de mon vivant. Maintenant, en étant plus terre à terre, ça m'étonnerait que ça arrive. La première des étapes que j'aimerais voir, oui, c'est la modification de notre constitution et l'arrivée
Oui.
d'une démocratie directe. Et ça, je pense par contre que il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça, qui s'informent et qui reprennent cette espèce de conscience politique. Et je pense que ça a beaucoup plus de chances d'arriver
Oui.
que de voir la police baisser son casque et Macron finir en prison.
Et ça dépendra de la prédisposition des gens à Je l'ai dit tout à l'heure, parler entre eux et se coordonner entre eux et réfléchir
C'est
entre eux
ça.
et agir, et surtout agir. Déjà, ce qu'avaient fait les Gilets jaunes, et c'était en ça, à mon avis, que c'était particulier, puisqu'on a l'habitude de voir des contestations purement manifestantes, c'est-à-dire j'appelle, s'il vous plaît, faites ça, on demande, arrêtez les massacres, arrêtez le génocide, etc. Ce qui évidemment est mieux que rien, puisqu'on donne un message, on affiche une position. Mais dans les faits, on voit bien que le pouvoir n'en a absolument rien à
Rien à
foutre des
foutre.
manifestations, même si on était un demi-million,
C'est
un
ça.
million, 5 millions. Et du coup, moi, j'ai évidemment jamais été sur les ronds-points. Tu as sûrement quelques passages. Et je pense qu'il y a aussi des apprentissages qui ont certainement été faits à ce moment-là sur. Bah, comment converger, s'entendre, s'écouter, parce que chacun n'arrive pas avec les mêmes peines ou les mêmes souffrances ou les mêmes
C'est
avis,
ça.
comme tu l'as dit tout à
Et
l'heure.
les mêmes facilités de les expliquer. Parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir s'exprimer verbalement, mais et puis c'est pas donné c'est pas facile de se faire comprendre non plus par des gens qui n'ont pas la même vie, n'ont pas le même passif et ou pas la même conviction. C'est pas évident tout ça. C'était ce qui était beau dans les Gilets jaunes, c'est que les gens ont tenté. Ça s'était pas vu depuis quand? Je saurais même pas le dire. Mais les gens de différentes classes sociales se sont mis à parler. Ça, c'est un truc que le gouvernement veut pas. Ils se font chier à payer des médias pour diviser les gens entre classes sociales, et d'un seul coup, tout le monde se fout sur un rond-point et discute.
Tu vois, c'est
Pas très
ça pour
bien.
moi la vraie évolution.
Et aujourd'hui,
C'est
c'est ce qu'il
quand
faut
on
faire.
bypasse la division par
Par
l'alliance,
l'échange.
par l'échange, par le partage,
Puis il n'y a rien de mieux pour
par la
comprendre une
reconnexion.
situation que de la vivre.
Ouais, c'est
Il
ça.
faut y aller. Il faut discuter
C'est
entre
vraiment
nous.
ça que j'ai senti qu'a déjà apparu parce que je crois que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il y a des séances préparatoires
Ouais,
partout, etc. Et moi, si j'étais le
exactement.
pouvoir, je serais beaucoup plus
Ils
inquiet
sont très inquiets de ça.
par ça. Que par les mecs qui
Ah ouais.
arrivent et puis qui vont
Je pense que c'est pour ça qu'il y a 80 000 flics.
crier
C'est
dans la
parce
rue.
que
Les
bon,
deux sont nécessaires.
les deux sont nécessaires. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a 80 000 flics dans la rue demain et qu'il y a des hélicos, etc. C'est parce qu'il y a des réunions préparatoires et parce que les gens des services de renseignement qui ont été envoyés dans ces réunions. Parce qu'on va pas se mentir, obligatoirement, il y a des gens
C'est
du
clair.
renseignement qui étaient présents.
Ah mais c'est sûr. Quand j'étais au Caire pour faire la marche globale contre Gaza, les renseignements égyptiens, ils savaient les trucs avant nous.
Eh oui,
C'est-à-dire, ils étaient donc très présents dans tous
bien
les.
sûr.
Mais c'est normal parce que quand tu es obligé de transmettre l'information, forcément, tes canaux, ils sont relativement ouverts et transparents. Donc
C'est ça.
forcément, ils sont au courant.
Mais là, on lit quand même dans les médias, et puis pas que dans les médias, hein, parce que bon, chacun sait un petit peu ce qui va se passer à ce niveau-là. Il parle d'actions sporadiques, difficiles à maîtriser.
Ah oui, tu vois, donc ils ont déjà adapté
Parce
le
que.
vocabulaire.
Ben parce que les gens se sont dit, je fous mon téléphone dans ma bagnole, je laisse mon téléphone chez moi, on va être 3 à 4 à parler dans une cave ou un garage, et au moins les 3 personnes avec qui je parle, je les connais. Et si on a décidé d'aller faire une action, peu importe, on garde ça entre nous, on n'en discute pas, et l'intérêt, il est collectif, il est pas là, on n'est pas là pour la gloire. Et ça, la police, les renseignements ont du mal à déterminer le nombre d'actions sporadiques qui peuvent être présentes sur le territoire demain. Et surtout leur niveau d'intensité, entre guillemets. Est-ce que ça va être des actions sur les radars tout simples, ou est-ce que d'un seul coup, il y a des fibres optiques de canaux de communication de gendarmerie, ou des fibres optiques qui permettent d'alimenter le centre de traitement automatisé des amendes de Rennes? Est-ce que ce genre de choses vont être touchées? Est-ce que des infrastructures de communication vont être touchées? Est-ce que des infrastructures d'État vont être touchées? Ils savent pas. Ou peut-être qu'ils s'en doutent, enfin sûrement ils s'en doutent, ils s'y préparent, mais ils ont pas de. À ce niveau-là, ils savent pas si l'ampleur de ce qui va se passer. Et ça, c'était un conseil que j'avais donné quand j'avais fait un live concernant le 10 septembre. C'était peu importe ce que vous allez faire, si c'est légal, vous pouvez le faire en publiquement, ça pose aucun problème. Si ça relève de l'illégal mais du légitime, faites ça le plus discrètement possible. C'est pas de l'incitation à la commission d'un crime ou d'un délit, puisque ça c'est du pénal et si je rentre en France, je vais me faire emmerder. Mais même si j'ai pas le droit de le dire, enfin j'aurais le droit de le dire, mais ce serait répréhensible. Même si je ne peux pas me permettre, si je veux pas de problème, de dire que je le pense fortement, j'ai le droit de le penser quand même. Que je serais très content que ce genre de choses arrive et que les choses changent radicalement très très rapidement.
Manquera plus qu'il nous enlève notre capacité de penser, hein, notre liberté de
Ouais.
penser.
Pour l'instant, j'ai le droit de le penser, c'est pas pénal, c'est pas du pénal.
Les rôles des partis. Que doit-il être idéalement? Parce que Enfin, il n'y a qu'un parti, hein. En l'occurrence, c'est la France Insoumise qui, me semble-t-il, a appelé à tout bloquer d'une certaine manière, ou en tout cas qui a donné une légitimité à agir, en tout cas demain. Bah, j'imagine qu'il faut de toute façon être vigilant par rapport aux partis institutionnels politiques, puisque bah, c'est toujours des jeux stratégiques et tactiques. Mais néanmoins, peut-on s'appuyer là-dessus? Enfin, quelle place tu vois pour le parti? Est-ce qu'il faut tout de suite l'écarter? C'est l'ennemi. Enfin, ça, tu vois, c'est un truc assez difficile parce qu'en Suisse, on a aussi, bah, c'est des régimes de parti. Et puis, le parti a quand même eu, je dirais, une légitimité au sein de la population puisqu'elle est encore perçue comme le moyen qu'on utilise pour affirmer la démocratie, même si, effectivement,
Je pense qu'en
on
France,
met
ça a
ça aussi
été
en
le cas
question.
quasiment jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les gens réfléchissaient en pensant que le parti ou les partis étant représentatifs étaient légitimes. Et je pense que ce mouvement qui va débuter demain, en tout cas l'idée de ce mouvement et ce qui se diffuse par rapport à ça, justement, démontre que la légitimité du politique, elle est terminée. Les gens
Ok,
n'en veulent
compris les
plus.
partis, tous les partis. Donc ça
Je,
doit être
je,
c'est un mouvement
moi, je.
à
C'est
partisan.
un mouvement partisan le 10 septembre, ça, qui s'affiche clairement comme un mouvement partisan. Et moi, ce que Mélenchon pense, je pense qu'un cravateux qui a passé sa vie à gagner de l'argent public et qui n'a jamais rien changé au monde, ça ne m'intéresse pas. Au même titre que Marine Le Pen, au même titre que ceux qui peuvent se dire ni de droite ni de gauche, du centre, comme un macroniste par exemple. Ces gens, ne m'intéressent, leur avis, pour moi, ils ont perdu toute légitimité à me donner un avis ou à me dire ce que j'ai à faire. Et je pense que le jour où je retrouverai cette légitimité, enfin, le jour où je respecterai une légitimité et que je retendrai l'oreille sur qui doit me dire ce que j'ai à faire, c'est quand les institutions seront refondues et réfléchies comme étant protégées par l'intérêt collectif et par la volonté collective. C'est-à-dire que vous avez un conseil des sages aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un président qui se fait élire pendant 7 ans chez vous. Ce qui est une bonne idée. Ce qui fonctionne qu'à moitié, mais ce qui est une bonne idée. Ben moi, je rêverais de ça, moi. Un RIC où collectivement, on dit est-ce qu'on met un porte-parole gouvernemental qui n'a pas de fonction de décision et qui ne fait que à l'étranger, pour la politique internationale, définir ou discuter de ce qui a été décidé dans son pays par son peuple. Ben, chez nous, on ne veut pas d'identité numérique. Ben, il va falloir l'appliquer sinon vous sortez des traités. Très bien, je note. Voilà. L'Europe nous propose de sortir des traités si on refuse l'identité numérique. Référendum, oui, non, ou, bah oui, on sort, très bien. Eh ben, ils ont décidé de sortir des traités. Et voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. Parce que c'est pas en fait, ce qui est fatigant pour moi, c'est de répéter en boucle des choses que non, mais c'est fatigant dans le sens où on parlait de légitimité. Moi, j'ai aucune légitimité. Je suis pas prof d'histoire, je suis pas économiste, je suis pas politique, même si moi je leur enlève toute légitimité.
Mais tu parles
Mais,
en
mais
jeu.
j'ai pas de formation précise. Je m'appuie sur les discussions que je peux avoir avec des gens qui sont formés, qui sont soit économistes, soit sociologues, soit politologues, qui travaillent là-dessus en étant impartisans, c'est-à-dire qui sont vraiment des gens qui adorent ce sujet ou leur sujet. Et qui les travaille. Et je pense par exemple à Anis Lajnef, que je cite régulièrement, qui est un économiste qui travaille à la Barclay aujourd'hui, enfin qui a travaillé à la Barclay, qui aujourd'hui, bon, s'est un peu calmé, mais diffusé énormément pendant le mouvement des Gilets jaunes sur ce que c'est le monde économique et pourquoi ces gens ont des privilèges et s'en servent. Et donc, j'ai pas de légitimité particulière, mais par contre, la seule légitimité que je revendique et que je veux, c'est la légitimité d'un citoyen qui est actif. Et j'aimerais que tous les citoyens deviennent légitime et actif. Quand on est, et c'est ce qu'on devrait être de base, un citoyen devrait être légitime de dire ce qu'il pense et devrait avoir la légitimité de pouvoir l'exposer au niveau national par le biais de certains dispositifs comme le référendum d'initiative citoyenne, avec comme chez vous, pardon, comme chez vous, vous pouvez les déclencher à partir de 100 000 participants, je crois, c'est ça?
Signature.
100 000 signatures. Là, on retrouve une légitimité, une souveraineté populaire. C'est-à-dire que je me lève un matin, je suis d'accord avec un sujet ou je veux exposer un sujet à mon pays, ben je travaille le sujet, je le diffuse, et puis les gens qui sont d'accord avec moi me disent OK, on y va, et on a assez de monde pour y aller, et on le lance le truc. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On est observateur de gens qui n'ont aucune légitimité finalement pour dicter ce qu'on a à faire, et qui en plus obéissent à des lobbies, à de l'argent, à des intérêts qui sont pas du tout les nôtres.
Non, non, j'ai envie de dire même, ils ont une illégitimité.
Bah
C'est
de
même pas qu'ils n'ont
facto.
pas la légitimité, c'est que c'est illégitime, c'est pire que ça, c'est le contraire. C'est qu'en fait,
C'est de
par
la
exemple,
trahison
Macron, il a
d'État.
15%. Ça veut dire que c'est
Ah,
illégitime,
complètement, ouais.
puisque la grande majorité souhaiterait qu'il parte.
Bah,
C'est la
ça
même chose
fait.
partout, aux États-Unis aussi, pour l'engagement dans les guerres, républicains ou démocrates, les écrasantes majorités souhaiteraient quelque chose et les gouvernements font exactement le contraire. Ça se répète ad vitam,
Mais
nauseam.
et puis quand vous commencez à évoquer pardon, les démocraties et la démocratie directe et la vie populaire, bah vous avez Macron qui vous répond, je ne serai pas le président du vote blanc. Je ne ferai pas de
Ouais.
référendum sur
Mais
où
bon, finalement.
parce qu'un vote de confiance présidentielle, quand vous avez
Mais
un
oui,
Premier
mais.
ministre qui le fait, pourquoi Macron n'a pas fait son vote de
Moi, j'ai l'impression que
confiance?
de toute façon, plus il parle, plus il se tire des scuds dans le pied, si on peut
S'en
dire ça
foutent?
comme ça.
Ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils risquent aujourd'hui,
Ben justement,
légalement
je
parlant?
crois que c'est quand même une construction. Chaque fois qu'ils interviennent ou qu'ils font quelque chose, il y a la colère qui gronde de plus en plus fort. Donc, c'est très inconscient. J'ai envie de dire, ils sont inconscients sur tous les plans. Jusqu'à ce qu'un jour se passe quelque chose
Alors,
qu'ils n'avaient pas vu venir eux, mais qu'on voit venir si on a un temps soit peu de pas bah, d'observation, une capacité d'observation, de réflexion.
je pense que ce qui est très très important là dans la phase qu'on est en train de vivre, c'est de bien comprendre que ces gens pensent que c'est loin d'être des gens qui sont stupides. Hein. Croire que Macron est un con, croire que le gouvernement français c'est des gens qui sont stupides, c'est pas du tout le cas. C'est des gens qui savent ce qu'ils font, qui sont carriéristes.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Je dis pas ça, mais ils sont
Et
certainement
c'est là que c'est
inconscients
important.
des conséquences que leur acte pourrait mener. Tu penses pas?
Moi, je pense qu'ils savent très bien ce que ça peut donner. Et que il y a des petits laquais en dessous qui aimeraient monter plus haut, qui, eux, pour le coup, ne savent peut-être pas. Les policiers, les préfets, tous ces gens qui aimeraient être un peu plus haut, à un stade en haut, et qui obéissent justement dans l'espoir d'eux, mais qui finalement resteront toujours en bas sans connaissance de rien. Puis il y a ceux d'en haut qui, eux, ont une vision globale de ce qui se joue. Et ils sont tout à fait d'accord avec les risques qu'il y a à prendre. Quand Macron, qui est loin d'être con, hein, sort des phrases qui sont insultantes, infantilisantes, etc. pour la population française, c'est pas anodin. C'est pas quelque chose qu'il fait par hasard.
Souvent
C'est quelque chose
scripté.
parce
Je crois
que
que c'est même réfléchi, calculé.
dans les contrôles de masse, le meilleur moyen de faire réagir les masses dans le sens dans lequel tu veux qu'ils réagissent, c'est l'émotion. C'est l'émotion humaine. La peur, qui est un vecteur très fort, mais aussi la joie. Donc quand on fait sauter Bayrou, la joie, ah, la joie apaise. Bah non, pas du tout, merde, il y a toujours du monde qui veut sortir. Donc on renomme un ministre dans la foulée pour être sûr de pouvoir gérer la police demain, parce que je rappelle quand même que du coup, gouvernement démissionnaire, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui gère le gouvernement pour que le ministre de l'Intérieur puisse donner des ordres à la police demain. Tu vois? Si ça avait calmé les choses, peut-être qu'on aurait
Ouais, je
fait
suis
différemment.
d'accord.
Mais là, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui gère la police demain. Donc il fallait vite quelqu'un. Et quoi de mieux que la veille du 10 septembre pour renommer quelqu'un? Remplacer Bayrou qui était peut-être un peu trop habitué au Prozac, je sais pas, enfin, il dormait, c'était compliqué pour lui. Et donc je pense que dans l'étape dans laquelle on est, il faut surtout ne pas réagir sous l'émotion. Il faut être presque aussi stoïque et froid qu'eux.
Mais faut pouvoir la partager quand même, son
Il
émotion.
faut la partager entre nous,
Ouais, exactement.
mais il faut surtout pas réagir à l'émotion que pourraient procurer des pseudo-satisfactions temporaires, réfléchies et organisées de façon très tactique. Là où il faut réfléchir de façon très pragmatique, c'est de se dire, ils vont tenter des choses pour nous faire plaisir. J'avais une expression qui m'était
Donner
sortie
du
à l'époque,
sucre.
ils vont nous donner des miettes, mais c'est la boulangerie qu'on veut nous. C'est récupérer la gestion de la boulangerie, pas les miettes de pain qu'on va nous donner ou le petit gâteau sucré qui était là sur le bord du truc. Retenez, ça va 100 balles de gasoil, c'est les aides à la con qui nous avaient sorti pour faire plaisir. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. À contrario de 1789, où par exemple les bourgeois ont laissé le bas peuple aller couper la tête du roi et ont écrit les règles du jeu à la place des gens d'en bas, tu vois? Et ça a donné ce qu'on a aujourd'hui.
Des besogneux, ouais.
Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de ne pas céder à l'émotion, surtout si elle, enfin, à l'émotionnel, surtout s'il vient du
Dans
politique.
l'action.
Vous serez provoqué dans la rue par la police. Ne cédez pas à la colère, pas celle-ci. Vous serez
Tu dis vous, tu dis nous?
Je dis tous les citoyens qui sont engagés, toutes les personnes, hommes, femmes, qui iront dans ces manifestations, qui participeront à tout ça ou qui boycotteront, il faut rester humain dans nos interactions de résistant à ce système, mais il faut rester froid et déterminé envers ces gens qui, eux, de toute façon, sont froids et déterminés dans leurs actions. Mmh. Tout est réfléchi chez eux. C'est militaire, presque. Mmh. Il faut pas se laisser berner ce coup-là, parce que la dernière fois, ça nous a coûté très cher, ça nous a coûté des décennies d'obéissance.
Oui, c'est ça. Ça m'a fait penser tout à l'heure, et tu me fais réfléchir avec ton « ils sont plus conscients que je voudrais moi croire », parce que c'est vrai que ça fait plaisir de penser qu'ils ne savent pas, mais en fait, ils savent très bien. Est-ce que Juan Broco, quand il écrit « Construire une guillotine », il est conscient qu'ils sont conscients, mais il aimerait leur dire « mais regardez, il pourrait y avoir un coup près à un moment donné ». Est-ce qu'il veut leur faire peur ? Qu'est-ce qu'il essaye de montrer quel chemin par ça ?
Alors, je ne vais pas parler à la place de Juan, mais il avait déjà évoqué cette question en répondant au fait que c'était une figure de style pour montrer que le peuple français était un peuple qui était capable de faire tomber les affreux, comme dirait Étienne Chouard.
Ouais.
Les affreux. Mais je pense qu'il y a un côté un peu réaliste de dire il faut trancher quelque chose. Il ne faut pas trancher une tête, peut-être, parce que bon, on n'est plus à l'époque de trancher des têtes, et puis c'est peut-être un peu barbare quand même, mais il faut trancher avec nos modes de vie, il faut trancher avec les systèmes politiques actuels, il faut qu'il y ait quelque chose qui...
Faire des choix, trancher.
Voilà,
quoi.
Il faut trancher. Je pense que, en tout cas, moi je le vois comme ça dans Construire une guillotine, Comment construire une guillotine, qui est un bouquin qu'il a écrit, ou Coup d'État, par exemple, que d'ailleurs... l'État n'aime pas trop, puisque dans Coup d'État, il y a énormément d'indications sur comment s'en prendre au réseau fibré du centre de traitement automatisé de Rennes, ou tout un tas de sites stratégiques. Pour ceux qui n'ont pas encore lu, je vous invite à le faire. Il est gratuit sur Internet, ceux qui pensent que c'est pour gagner de l'argent. Je pense que c'est une figure de style qui est très intelligente, dans le sens où c'est quelque chose que les politiques détestent. Pourtant, sur l'Arc de Triomphe, on voit des résistants. On fête nos résistants tous les ans, la libération, etc. On est fiers d'avoir eu des gens qui se sont battus en se cachant, en étant le plus anonyme possible et en commettant des actes de sédition, des actes de... Alors, pas des émeutes, mais de sabotage, etc. Et aujourd'hui, quand on voit... je suis pas très bon en maths, mais 15% d'opinion favorable pour Macron, ça fait 85% d'opinion qui n'y est pas favorable. Alors, on va pas dire défavorable, sinon on me dira que j'extrapole, mais ça fait donc au moins 85% des gens qui sont légitimes à dire qu'ils sont contre. Et si ces gens, demain, dans la rue, détruisent des radars qui sont clairement des pompes à fric et qui sont pas là pour la sécurité, si les gens détruisent des péages qui sont clairement des pompes à fric, puisque on a payé nos autoroutes et encore une fois, l'intérêt du politique a fait jouer a fait jouer ses connaissances pour que des entreprises privées gagnent de l'argent. Tout ça mélangé fait que 85% de légitimité, c'est la population qui l'a. Et donc demain, si moi je vois des radars qui sont désactivés temporairement, voire définitivement, si je vois des péages qui sont désactivés temporairement ou définitivement, et qu'au final, c'est les automobilistes qui paieront moins d'amendes pour 1 ou 2 km/h. C'est des automobilistes qui ne paieront pas de péage pour des autoroutes qu'on a déjà payées, qui ont été construites par nos anciens. je vais certainement pas verser une larme, bien au contraire. Mmh. Et demain, on sera le 10 septembre. Moi, je participerai à certaines actions, à certains moments de la journée, mais sans mon téléphone, sans que personne ne sache où je suis, sans prendre mon véhicule, sans que... Voilà. Parce que ça coûte trop cher de montrer son visage et de le faire publiquement.
Bien sûr. Alors, je pense qu'il y aurait quand même une coordination. Bien sûr, individu, petit groupe, qui est très importante, qui, de manière assez organique, j'imagine, ça, c'est pas forcément le problème. Je pense néanmoins qu'il faut aussi une coordination informationnelle, globale. Et évidemment, on va pas compter sur les médias de grand chemin pour... donner des informations qui pourraient être aidantes. Au contraire, ils vont semer la zizanie. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être un peu refaire le cheminement qui a été utilisé contre les gilets jaunes, je ne J'arrive plus à parler. Contre les gilets jaunes à l'époque, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de chercher dans l'historique des gens impliqués, la petite bête pour décrédibiliser, c'est quoi les stratégies médiatiques et qu'est-ce qu'il va falloir du coup utiliser ou sur quoi il va falloir se retourner pour peut-être acquérir une compréhension, une connaissance, pour s'inspirer aussi et puis pour voir que ça avance dans la bonne direction.
Ben c'est là que je pense que c'est très important, ce dont on parle, j'arrive plus à parler non plus, c'est une catastrophe.
Ouais, tu vois,
Ce dont on
c'est
parlait,
certainement du whisky qu'on a.
c'est de l'eau dans la tasse, hein, si jamais.
Bon, bah voilà,
Non, ce qui est
navré,
important,
faites
c'est
votre mieux.
que, effectivement, toutes les actions que vous faites, évitez d'en discuter sur les réseaux sociaux, sur vos téléphones, par messagerie, etc. Discutez-en de visu et en comité restreint. Et quand vous avez des actions qui sont faites, le plus important, c'est d'en parler. Le bouche à oreille, il n'y a pas mieux comme média. C'est-à-dire que quand vous avez un BFM TV à 20h qui dit, bon, il y a eu trois poubelles brûlées, deux personnes dans la rue, si les gens qui participent disent, mais regarde les photos, regarde combien il y a de personnes. Ça, BFM, il peut rien. Ils peuvent rien faire. Et si tout le monde se remet à parler les uns envers les autres, c'est des réseaux qu'on ne peut pas surveiller, ça. C'est beaucoup plus long pour un État d'aller chercher la vérité dans le bouche à oreille que sur une discussion où il y a 240 000 personnes qui discutent et où toutes les infos sont là. Donc, coupez vos téléphones quand vous discutez et parlez de ce qui se passe à tout le monde. Parlez de ce qui se passe en famille. Parlez de ce qui, sans agressivité et sans, même dans le désaccord, mais posez-leur des questions. Dites-vous, mais tu crois que ça va durer combien de temps encore le fait que ces gens nous prennent pour des cons et utilisent nos vies comme du consommable? Vraiment? Et ça touche tout le monde. C'est-à-dire que je peux avoir ce discours avec un chef d'entreprise comme avec quelqu'un qui est au RSA, avec une femme comme avec un homme, avec quelqu'un de droite comme avec quelqu'un de gauche. Cette phrase toute simple de « Tu crois que ça va durer combien de temps encore le fait que ces gens utilisent leurs privilèges pour se servir de ta vie comme du consommable
Aussi simple que ça.
?» Et il y a pas de droite, il n'y a pas de gauche dans ma phrase. Il n'y a pas de différence de genre, de différence d'ethnie, de religion ou quoi que ce soit. Il y a une simple question. Et si à cette question, la réponse que vous avez, c'est je pense que ces gens ne me feront pas du bien, bah bienvenue demain.
Quoi faire?
Y a de quoi faire.
Mais ouais, il faudra visibiliser aussi les réussites. Pour rester motivé, il faut aussi qu'on voit que ça avance, que ça
Et
bouge, que ça
ben,
peut amener des
dans ce cas-là,
résultats.
vu que c'est en direct, j'invite toutes les personnes demain à m'envoyer les photos de toutes les boîtes à photos qui auront rendu l'âme. De tous les péages qui seront restés ouverts, puisque dysfonctionnels, de toutes les actions que vous pourrez avoir vues, sans
Par
y avoir
hasard.
participé et par hasard, sans visage, absolument, toutes les photos, je les publierai si vous voulez, sans problème, mais je ne veux aucun visage sur les photos, personne de reconnaissable. Et quand vous m'envoyez une photo, vous faites une capture d'écran de la photo, si vous l'avez prise avec votre téléphone, ce qui, dans le fichier, enlèvera la localisation et l'heure de la prise de photo. Voilà.
Soyons honnêtes, les risques, il y en a de nombreux, des
Toujours.
pièges, il y en a aussi, sur lesquels on peut tomber, bien sûr que ça va arriver.
Les risques ont
Rappelez
manifesté.
que les batailles, c'est pas la guerre. Rappelez ça
Déjà
aussi.
ça, et puis être très très honnête, en face de la police, vous risquez gros, vous risquez des mutilations, vous risquez d'être tabassé, vous risquez de peut-être en mourir, ce qui a été le cas de certaines personnes en manifestation. Donc les manifestations, c'est très risqué. C'est très 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 risqué. C'est pour ça que d'ailleurs, l'appel de ce mouvement, c'était un boycott et des actions qui étaient disparates, c'est pas le mot que je cherche, mais qui étaient vraiment éparses, rapides et qui rendaient le travail des forces de l'ordre très compliqué. En plus de ça, il y a un dispositif de police qui est énorme, selon le ministre de l'Intérieur, parce que diffuser 80 000 policiers sur la France. Sur tous les sites où il faut en mettre, ça fait pas beaucoup de flics finalement. Donc il y aura sûrement beaucoup de policiers effectivement sur Paris, puisque Paris centralise l'attention du gouvernement, mais c'est pas Paris la cible des Français. C'est leur souveraineté et c'est le territoire complet. Donc les gens qui peuvent pas monter sur Paris, c'est très bien, et les gens qui peuvent pas manifester, c'est très bien. Il y a d'autres manières de faire. Toutes les manières sont complémentaires. Faites ce que vous voulez, comme vous le pouvez. Et effectivement, il y a des risques. Dès qu'on commence à jouer contre l'État, ben, il y a les risques financiers, les risques judiciaires, les risques physiques, tous les risques qui sont liés à la stigmatisation. Donc les médias vous feront passer, si vous participez à ça, comme étant des séditieux, des factieux, des violents, des émeutiers, tantôt d'extrême droite, tantôt d'extrême gauche. Vous allez aussi avoir les médias qui sortiront de leur contexte des propos qu'un individu isolé aura eu dans une manifestation de 50 000 personnes, admettons. On va dire, tiens, il y en a un qui a dit des propos homophobes, bah, le mouvement est homophobe. Non, c'est faux. C'est absolument pas un mouvement homophobe, c'est absolument pas un mouvement partisan. C'est un mouvement apartisan qui tend à vouloir, à vouloir faire en sorte que les populations, en tout cas la population française, récupère sa souveraineté. C'est ça la base. Tout le reste, vous allez l'entendre.
Ce sera l'histoire.
Et vous allez l'entendre. Des médias, surtout des médias, vous allez l'entendre. Vous serez la pire vermine de la planète. Sauf que si ça marche, qu'on arrive à être assez, qu'on arrive à faire basculer tout ça, dans les livres d'histoire, on a écrit qu'il y avait des résistants en France. On n'a pas écrit qu'il y avait des séditieux factieux qui étaient des terroristes et qui faisaient péter des lignes de chemin de fer parce qu'ils étaient contre un ordre établi qui voulait le bien collectif. Voilà.
Oui.
Donc l'histoire est écrite par celui qui l'a gagnée. Toujours. Malheureusement, la plupart du temps, c'est l'État qui gagne. Parce que la peur, parce que l'argent, parce que...
Bah, malheureusement, il y avait probablement moins de résistants que on s'en réclame aujourd'hui. Ça, c'est d'une certaine manière une bonne nouvelle, parce que ça veut certainement dire...
Qu'une minorité peut changer les choses.
Exactement. Il y a ces théories-là, et je pense qu'il ne faut pas que 100% de la population française se lève, bien qu'évidemment, plus il y en a, mais...
Après, je pense qu'effectivement, en France, il y avait très peu de résistants. Je crois que les chiffres qui sont dits à chaque fois, c'est entre 1 et 3%.
Ouais, j'ai entendu ça.
C'est à peu près ça, très bien. Mais après, c'est pareil, l'opinion favorable. Mmh. Combien de gens ont aidé des résistants et n'ont rien dit parce que
et du
sinon
coup, là,
ils pouvaient.
Il y a peut-être une place pour la Suisse. Comment, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Suisse pour soutenir
diffuser de l'information.
Français.
Vous êtes déjà une population qui se pose des questions. Vous avez déjà une espèce de pseudo-démocratie directe.
Oui, mais c'est aussi dû à la taille, je pense. Et peut-être
qu'il
y a une
leçon
là derrière, enfin, mais la centralisation est antidémocratique par essence. Et du coup, ben, il faudra revenir à des échelles individuelles, des petits groupes, des petites régions.
Bah, ça aussi, ça a été un truc qui a été détruit par les gouvernements successifs. Les régions, les départements, les communautés de communes, etc. Tout ce qui était décentralisé à la base en France, c'est petit à petit centralisé pour arriver aujourd'hui à un truc... tu ne peux plus rien faire sans avoir des problèmes en France. Tu veux faire un permis de conduire, ça te prend les yeux de l'aide, ça te prend la videra.
La bureaucratie notamment.
La bureaucratie, c'est devenu un enfer, même pour ceux qui travaillent à l'intérieur. C'est-à-dire que quand tu discutes avec quelqu'un qui travaille à la NTS, travaille en mairie, il te dit il me faut 12 papiers pour une information que tu peux avoir presque sur Google.
C'est dans le film L'Auberge espagnole, je crois, le premier volet, où, pour faire un voyage à l'étranger. Ça lui a pris, je sais pas, une année et 25 bureaux.
D'accord.
On voyait à droite à gauche.
Il y a Astérix Obélix avec le formulaire 26B ou je ne sais plus quoi.
Ah oui, aussi, ouais.
Pour rentrer, il faut le formulaire. Bah, d'accord. Et le formulaire, il est où? À l'intérieur. Donc, pour rentrer, il me faut le formulaire, mais le formulaire est à l'intérieur. Je fais comment? Il faut le formulaire.
Enfin, ouais. Moi, j'aurais envie d'appeler. Alors, en même temps, il y a un paradoxe de la gravité du moment, de la dangerosité de la situation.
On est dans un moment très sérieux.
Et en même temps, ça va être une démonstration d'humanité. Et du coup, la joie, l'entraide et. Ouais, quelque chose qui est de l'ordre du vivant doit absolument avoir sa place. Et là aussi, je peux prendre l'exemple notamment de la Palestine, où on voit souvent des gens être complètement brutalisés et pourtant être arrêtés par la police en gardant le sourire d'une certaine manière. Puisque je pense que la plus grande stratégie, ça va être de déshumaniser l'opposant. Et que du coup, l'effort qu'il faudra faire ou le phare qu'il faudra jamais perdre des yeux, c'est comment on peut rester humain, se tolérer aussi malgré nos différences, t'en as largement parlé. Et je pense que ça aussi, ça sera une clé. Mais du coup, j'aurais envie de dire, amusons-nous, quoi, en même temps. Mais tu vois, en même temps, c'est difficile parce que...
C'est pas un jeu, mais... Tu sais, la peur mobilise les foules. La peur fait obéir les gens. La joie mobilise tout autant. Et la joie crée des liens... Le plaisir, l'hormone du plaisir crée des liens qui sont incroyables entre les gens. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, c'est un peu cette espèce d'excitation, si je peux dire ce mot-là, qui a été vécue par énormément de gens pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que les gens manifestaient le week-end, luttaient contre un État, se sentaient moins seuls, et quand ils arrivaient à la semaine et qu'ils devaient aller travailler ou qu'ils devaient rentrer chez eux, ils étaient en presque en manque. C'est-à-dire, mais même moi, je l'ai vécu ça. T'arrives la semaine, tu dis, mais j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner parce que là, quand j'y vais, j'ai l'impression.
Ouais, la
J'ai
fraternité, il y a
Et puis, j'ai
l'humanité.
l'impression de faire quelque chose de concret. Je lutte
Ça fait du
vraiment.
sens, j'ai ma place,
C'est
mon
ça. Donc là,
utilité.
demain, il va y avoir des actions qui sont mises en place et qui vont encore une fois créer des liens entre les gens et montrer qu'ils ne sont pas seuls. Alors, il y avait eu à l'époque le gilet jaune que les gens avaient mis dans le véhicule pour qu'on voit combien de personnes on était. Mais aujourd'hui, on le voit dans les chiffres, mais dans les discussions autour de nous, je te jure, c'est incroyable comment ça. Sur ce point, ça a énormément changé par rapport aux gilets jaunes. C'est-à-dire que quand les gilets jaunes étaient. Quand c'était dans le début, donc dans l'espèce d'effervescence du début, beaucoup de gens se taisaient, beaucoup de gens évitaient d'en parler, mis à part ceux qui étaient impliqués dans le mouvement, mais les autres, ceux qui étaient pas forcément dans les manifestations et qui regardaient ça de loin, avaient du mal à en parler. C'était compliqué, puis les médias ont discrédité ce mouvement très très rapidement en essayant de le stigmatiser. Et là, ça a été impossible de parler avec des gens, ils voulaient surtout pas s'affilier Gilets jaunes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'étiquette. Il y a bloquons tout. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de gilet, il n'y a pas de. Y a pas de. C'est ça aussi que le gouvernement se dit, merde, là, c'est un peu plus compliqué à gérer. Parce qu'on fait comment pour discréditer? Les médias l'ont fait très rapidement avec Mélenchon. Le mouvement est récupéré par l'extrême droite, les Black Blocs, et donc a une volonté de foutre le feu à la France. C'est le seul truc qu'ils ont trouvé pour essayer de. Ils ont pris un parti politique qui est classifié comme étant un mouvement un peu. Anarchiste, un peu violent, un peu machin. Et puis on lui colle cette étiquette-là, comme ça on va essayer de calmer. Ça marche pas. J'ai des patrons d'entreprise qui discutent avec moi et qui m'ont dit, moi le 10, je ferme ma boîte, j'ai donné la journée à tous mes employés et je vais me mobiliser comme je peux, mais je vais faire un truc. Et si ça dure, je m'arrangerai, on voit comment je peux faire, mais je ferai en sorte. Il a mis des étiquettes sur la devanture de son entreprise en appelant à payer au liquide. En disant que les gens qui paieraient en liquide auraient 5% de réduction sur le troisième truc. Enfin, en proposant des trucs qui incitent les gens. Et à ma grande surprise, c'est des gens qui n'étaient absolument pas dans le mouvement des Gilets jaunes à la base, qui regardaient ça d'un œil très critique. Ils disaient, bon, c'est encore des gens qui veulent juste foutre le bordel. Et aujourd'hui, bah, y a beaucoup de gens comme ça. J'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux de gens qui étaient, bon, alors j'ai rien fait à l'époque, j'étais pas avec vous, mais là j'en ai plein le cul, il faut que ça change. L'autre guignol, il commence à. Enfin, je suis un peu cru dans ce que je dis là, mais c'est comme ça
C'est mûr,
voilà.
moi je pense
Et
c'est clair.
Voilà, j'en ai plein le cul, je veux que ça change, et puis c'est con, de toute façon, tu peux mettre n'importe qui, c'est toujours le même bordel, donc allons-y. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment. Je pense que c'était juste sur le point d'éclore avant que le Covid arrive.
Oui.
Et le Covid est arrivé. Et là, on est presque au stade 2 de maturation de la colère citoyenne avec une prise de conscience de quelle est l'importance de récupérer
Oui.
son.
J'aime bien que tu dises le stade 2. Moi, à mon avis, c'est peut-être même le stade 127. Seulement, il y a des choses beaucoup plus silencieuses que d'autres.
C'est
Et les
ça.
gilets jaunes, c'était
Je
pas
parle du stade
silencieux,
de
point, tu vois.
public.
Ouais,
Tu
tout
vois,
à fait.
ben, il y a eu
Mais
des étapes
peut-être.
énormément, enfin très importantes
Exactement.
entre les deux.
Et ça, c'est plutôt réjouissant de voir que, en fait, même si tu represses et que tu arrives, crois-tu, à éteindre la chose, elle existe toujours dans l'invisible. Ce qui donne aussi. De l'espoir par rapport à la suite. Aussi, je pense qu'il y a une maturité à avoir. On en avait déjà discuté. Hein. Et dis-moi si je me trompe, mais j'avais un peu cette théorie que, surpris par leur taille et leur pouvoir et leur efficacité, les gilets jaunes ont été amenés trop près, trop vite pour vraiment savoir quoi faire après
Ouais, je
avoir passé ces barrières-là.
pense qu'il y
Et
a de
du
ça, ouais.
coup, qu'est-ce qu'on a appris plus largement pendant cet acte 1, on va peut-être l'appeler comme ça, même s'il y en a plus. Si on considère qu'aujourd'hui c'est l'acte 2, y a-t-il des choses où on se dit, ah bah tiens, là il y avait un bouton, ouais, il faut appuyer dessus. Puis là, par contre, ce bouton-là, faut être vachement vigilant. Enfin,
Bah.
c'est peut-être caricatural et
Non,
trop
mais
facile de dire comme ça,
c'est
hein.
très caricatural, mais c'est bien d'imager les choses parce que c'est parlant. Alors, il y a deux choses. Si on évoque sur quel bouton faut appuyer, parce qu'on aurait compris sur quel bouton faut appuyer, c'est aussi dire à l'État, faites gaffe parce qu'on va appuyer ici. Donc, à la veille d'un jour qui peut potentiellement devenir un jour historique, on va éviter de dire des choses qui peuvent aider. Mais par contre, ce que je peux dire, et ça c'est une pensée, c'est une conviction intime presque, c'est que Entre le moment où le Covid est arrivé et aujourd'hui, il y a eu des centaines d'heures de débats de gens qui ont fait des conférences, qui ont fait des réunions entre eux. Il y a les ruches de Juan Branco qui sont nées avec des réunions par département, par région, voire. Il y a des débats qui sont mis en place. Il y a Étienne Chouard, Benoît Guarini qui travaillent énormément sur l'information populaire liée au référendum d'initiative citoyenne
Voilà,
et
la
la souveraineté populaire.
constituante.
La constituante, etc., avec des mouvements comme Objectif RIC, etc. Donc tout ça, c'est une structuration qui a mis début Covid à aujourd'hui. Et ça, quand on écoute les médias et les politiques, c'est mais non, mais les gilets jaunes, depuis, ils n'ont
N'existe
plus
pas.
rien fait, c'est mort, non? C'est qu'est-ce que. Ils sont rentrés chez eux, les gueux, non, c'est pas ça? Ah, ils ont travaillé ensemble. Ah, ils ont réfléchi à comment nous enlever nos privilèges. Et ils sortent le 10. Ah merde, ils sont où les hélicos déjà? Donc voilà, on en est là. Ces gens sont pris de court une deuxième fois. Ils ont l'impression que la police fera le sale boulot à leur place. Sauf que, imagine demain, il n'y a personne dans les rues devant les policiers. Imagine que t'es 80 000 flics de déployés partout, des blindés, des hélicoptères,
Ça
des
m'est venu
drones,
à l'esprit, j'avoue,
et
il y
que
a quelques minutes
demain,
en arrière.
t'es personne dans les rues, mais que tout le monde boycotte tout ce qui est
Il y
possible
a,
de
il y a des,
boycotter.
ouais, quelque chose qui est fait au niveau de
Et
l'agent.
que dans la journée, bah, il y a des radars qui s'éteignent. À vie.
Plein de choses qui se passent.
Et plein de choses qui se passent, mais putain, les flics, ils n'ont pas le temps de bouger. Merde, ça va trop vite, chef. Imagine que c'est ça qui se passe. Comment ce serait beau de voir à quel point un État est capable de se chier dessus, de prendre les plus grosses capacités possibles et déployables pour essayer de dire, attention, c'est moi qui ai des muscles, et de se retrouver à poil et incapable de gérer la situation. Je trouverais ça magique, moi.
Bien sûr. Et cette idée existe quand même dans l'esprit des gens depuis très longtemps. Moi, je me rappelle avoir regardé ce film qui s'appelait L'An 01. Je ne sais pas si tu
Non,
te
ça me dit
rappelles.
rien du tout, ça.
Ou À midi, on arrête tout. C'est le truc du film. À
Ok.
midi, on arrête tout. Donc là, c'est la même chose, on bloque tout. Et s'ensuit le film qui est très intéressant. Avec, comme ça, c'était à l'époque où la pensée anarchiste, quand même, avait sa place. Était respecté avant d'être complètement dénigré et un petit peu abandonné suite à 2009. Mais moi, je sens un peu de cette magie-là, même si évidemment les temps ont complètement changé, ça n'a rien à voir, hein. Mais y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de beau quand là je t'entends dire imagine, imagine. Ben
Ah
oui,
ouais.
ça, en fait, ça m'excite, ça, c'est,
Tu sais, c'est ce qui s'est passé pendant le mouvement
ça
des
me
Gilets jaunes à
réjouit, quoi.
Versailles. À Versailles, c'est peut-être un des plus beaux coups qu'on leur a fait d'ailleurs. On avait annoncé qu'il y aurait une mobilisation à Versailles. Ils ont déployé des blindés et je ne sais pas combien de flics à Versailles. Il n'y avait personne à Versailles. On est tous arrivés sur les Champs-Élysées. Ils se sont fait prendre de court. C'était magique. C'était magique. Sauf que, comme tu disais, il y avait pas d'après. C'est-à-dire, on aurait été jusqu'à l'Élysée. Qu'est-ce qui se serait passé? Je sais pas. Les bourgeois auraient réécrit des règles et on se serait peut-être fait entuber. C'est pour ça que quelque part c'est bien qu'il y ait un stade 2 et que ce stade 2 soit là beaucoup plus en conscience, beaucoup plus en conscience et beaucoup plus en remise en cause des structures existantes.
Et au pire des cas, avant l'acte 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que
Mais après, je
un
pense que la...
basculement se produise.
Bah je... Alors peut-être qu'il y aura un basculement à l'acte 2,
Ou pas.
peut-être à l'acte 3, peut-être à l'acte 4, peut-être qu'il faudra attendre 50 actes pour que ça arrive, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais... Je pense que si ça arrive, c'est important que derrière il y a encore des actes. C'est important que si un jour on arrive à une démocratie directe, elle se soit remise en question en permanence. C'est-à-dire mettre des contre-pouvoirs qui justement fassent attention que les choses ne s'enlisent pas dans un truc dont on perd le contrôle totalement. Comme quand on entend nos anciens dire, alors en France on parle des 30 glorieuses après la guerre, la période de jouissance où c'était facile de trouver du travail en traversant la rue, etc. Et ces anciens qui disent, je comprends pas, nous ça allait bien. Parce qu'effectivement, comme ça allait bien, ils ont laissé faire. Et comme ils ont laissé faire, ils ont laissé un boulevard aux politiques qui se sont servis de tout ça pour leurs intérêts. Et on en arrive là aujourd'hui. Il y a une phrase qui est, je ne sais plus de qui elle est d'ailleurs, mais parce que moi, je ne suis pas très littéraire. Et je retiens les phrases qui m'intéressent. Il y a une phrase qui dit,
Ça marche aussi.
les temps difficiles font des personnes fortes, les personnes fortes font naître des personnes fragiles, les personnes fragiles amènent des temps faciles, et puis ça tourne en boucle. En disant que finalement c'est cyclique. C'est pour ça que. Alors je sais pas quelle heure il est, mais je pense que. Peut-être pas. Ouais, il est déjà 9h15.
Oui. Tu travailles demain.
Ouais, je travaille demain.
Mais on dira pas où tu travailles demain.
Non, 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 non. Et
Mais en tout cas,
on dira
il faut
pas
se
où je travaille non plus parce que je travaille
Il faut se lever
sur un
tôt.
projet surtout.
Faut se lever tôt, en tout cas. Parce que la vie
Toujours
appartient.
à ceux qui se
Ah oui, pardon,
lèvent
pour faire
de
une
bonne
autre fin.
humeur.
Surtout.
La vie appartient à ceux qui se lèvent de bonne humeur. Faites ce que vous aimez dans la vie, vous verrez que la vie vous appartiendra.
Exactement.
C'est pour ça, donc pour finir sur ce qu'on disait, que le titre était un peu réfléchi. R, évolution ou révolution. La révolution, c'est un tour sur
Exactement,
soi-même.
on revient en arrière
Et
d'une certaine manière.
c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois on dit, est-ce que les Français sont révolutionnaires? Oui, on a fait un tour de bocal. Et ce serait bien qu'on sorte du bocal cette fois-là. Et ce serait même vital. Parce que si en plus ça peut montrer à la voie à des populations dans le monde entier, et que ça peut changer de système qui est un système sans, on va pas se mentir, c'est une toile d'araignée. Tout est interconnecté, tous les pays du monde sont interconnectés. Si on change que la France et que ça ne change pas à côté, ça
Mais
peut être
oui.
presque un coup de bâton dans l'eau.
Mais ce n'était pas le cas. Déjà, la Révolution française, elle avait eu un impact sur le monde entier, hein.
Exactement. Et aujourd'hui, en plus, les populations du monde entier en ont plein le cul. Pas la plus belle des expressions, mais en ont ras-le-bol, si vous préférez. Donc je pense qu'on est on est de toute façon sur une fin de cycle. Et j'espère qu'on est sur une évolution et un basculement dans l'intérêt des peuples. Ouais.
Eh bien, à Maxime, Nicole, pour rappeler ton nom de famille, c'est tout ce que je souhaite, en fait. Je te remercie beaucoup d'être partie prenante de tout ça, de m'accorder de ce temps, moi qui suis un petit peu éloigné quand même des choses. En tout cas, ça va pas s'arrêter là, et cette chaîne, elle va être à disposition aussi de tous ceux qui souhaitent agir pour créer quelque chose qui est plus proche de ce qu'ils sont. Et pas de la corruption et de toute la mocheté que créent nos dirigeants depuis maintenant perpète.
Le monde est monde.
Exactement. Et du coup, ben, merci beaucoup. Et puis, on se tient au courant, hein, comme on dit.
Ouais,
De bouche à
de
oreille.
bouche à oreille,
Voilà, on
carrément.
restera les oreilles bien connectées.
Avec grand plaisir.
Et puis, ben, du coup, à bientôt. Prends soin de toi.
Merci, toi aussi. Et
Ciao!
merci de donner la parole à tout un tas de gens. Je vous invite à aller voir le contenu que Antoine fait, c'est très intéressant.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Salut.
Salut.